Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, toute la communauté Gameblog, plus tous les Gameblogueurs, Gameblogueuses, plus Thomas.
Hey hey.
Ça va? Tranquille?
Bah ouais, ça va et toi?
Ouais.
T'as une super forme aujourd'hui, non?
Non, pas du tout, je suis
okay,
fatigué.
Ok, je me suis trompé.
T'as pas chopé le coronavirus, ça va?
Je sais pas, je crois qu'il y a 7 à 14 jours d'incubation, donc réponse la semaine prochaine.
D'accord, ok, bah ça se trouve la semaine prochaine on sera tous en enfer. Romain M.
Bonjour.
Moi le coronavirus, j'en suis plus très loin là.
Voilà, exactement, je crois qu'il est à l'article de la DES. Et un certain Camille.
Hello.
Qui revient de Pologne.
Ouais, mais en parfaite santé d'ailleurs.
T'as rien chopé en Pologne, t'es sûr?
Non, rien du tout.
Ouais, on verra ça dans quelques jours. Et Poufy la technique, bien sûr. Ça va Poufy? Ouais, je suis con, j'attendais qu'il parle. J'attendais qu'il parle, mais en fait non.
Ah, mais même s'il parle, les gens ne l'entendront pas malheureusement.
Il faudrait qu'on lui mette un micro quand même, histoire de...
Refus catégorique.
Exactement.
Voilà.
Et clin d'œil à Charles, notre stagiaire troisième, qui surveille tout ça et qui... Et qui nous regarde.
Qui nous juge d'un œil approbateur.
Exactement. Et qui va dire qu'on fait tiep. Bon alors, comment ça va, à part que vous êtes tous malades?
Bah très bien, encore un super podcast qui nous attend.
Exactement.
Avec plein de trucs incroyables, mon cher Traz.
Bon alors, effectivement, l'actualité est pas dingue. Vous en êtes rendu compte, évidemment. Mais on va quand même faire une émission d'actu avec ce qu'on a pu avoir cette semaine.
C'est le calme avant la tempête un peu. Là,
oui, c'est exactement ça.
Restez, vous allez voir, ça va être super bien.
T'as l'impression que tout le monde fourbit ses armes, ne dit rien, attend que l'autre avance ses pions, etc. Et puis tout d'un coup,
c'est savoir qui va dégainer en premier.
Tout à fait.
Restez, ça va parler chiffres, ça. Ça va être tout.
Ouais, alors là, les chiffres, je vais les laisser faire parce que je vais m'embrouiller, moi.
Alors que c'est toi le maître.
Ouais, à la base, c'est moi le maître, c'est vrai, tu as parfaitement raison. Mais là, non. Je sais pas pourquoi. Bon, évidemment, il y aura le win, le fail de la semaine. Restez avec nous, ça va être drôle ou pas. Il y a 10 ans sur Gameblog, que s'est-il passé? Franchement, je me demande. Et effectivement, comme tu le disais, Romain, le thème numéro 1, ça sera le bilan des constructeurs pour l'année fiscale, bon, qui n'est pas terminée.
Dans le dernier trimestre.
Sur le dernier trimestre, évidemment. Il y aura aussi le thème numéro 2 avec la première prise en main de Disaster Report 4+. Pourquoi 4+?
Bah parce qu'en fait le 4 dans son état originel n'est jamais sorti. C'est une longue histoire qu'on va récapituler tout à l'heure.
Justement, tu viens de nous en parler, ouais, tout à fait.
C'est une histoire compliquée.
Exactement. Et toi Camille, tu vas nous parler de ton super jeu dans le thème numéro 3 que tu as vu il n'y a pas longtemps.
Exact. Enfin que j'ai
que j'ai joué,
ouais, Warcraft 3 Reforged.
Voilà, exactement.
Même si c'est pas moi qui fera le test, hein, c'est notre ami Dopa.
Alors on enregistre, il n'est pas encore testé, mais ça ne saurait tarder normalement. Voilà, et puis
petit message à Dopa.
Exactement. Grouille-toi, Dopa. Et donc les rubriques habituelles après anniversaire et hors jeu.
Grouille-toi, Dopa.
Pas mal.
Pas mal, vas-y, on te laisse chanter.
Générique de la prochaine saison.
Jusqu'à la fin. Et si on commençait par le win alors?
Et si on faisait les rubriques à l'envers, on commence par le hors jeu.
Exactement. Parfaitement, non. Bon, le win.
Comme d'habitude,
le win ou le win?
Eh ben, le win, c'est une fois de plus cette loi qu'on adore détester, loi de Untitled Goose Game, et surtout le studio House, studio australien qui s'est fendu d'un communiqué qui l'honore la semaine dernière, puisqu'en fait, le studio House a annoncé qu'il allait de manière pérenne reverser en fait 1% de ses revenus à des groupes indigènes australiens, en fait, à des natifs. Puisque le 26 janvier dernier, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans cette partie du monde, mais c'était l'anniversaire, le éventuellement triste anniversaire du débarquement britannique en Australie. C'était un beau jour de 1788, donc le 26 janvier de la même année, où des colons se sont dit qu'ils allaient prendre justement ce petit bout de terre. Et puis, comme on était assez rapide à l'époque pour dire que c'était à nous, deux semaines plus tard, eh bien, les Britanniques avaient réclamé le territoire dans sa globalité.
Juste comme ça.
Voilà, comme ça, parce que ça leur faisait plaisir. Alors, on sait qu'après, ils ont envoyé des criminels, etc. et que tout ça a donné l'Australie. Toujours est-il que House, qui se trouve à Melbourne, s'est rendu compte en fait que ils exploitaient un petit peu une partie d'un territoire qui ne leur appartenait pas à l'origine, et du coup ils s'inscrivent dans un mouvement un peu plus large qui s'appelle Pay the Rent, donc payer votre loyer, et qui vise justement à rétribuer un petit peu les natifs d'Australie en reversant une partie de son argent finalement de manière régulière. Et donc c'est dans cette démarche que s'est inscrit le studio House, et du coup ça les honore puisque ils prennent position sur certains trucs. Il y a quelques semaines ils avaient également trollé les conservateurs britanniques. Donc autant vous dire qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils continuent de monter dans notre estime.
Et de vendre des jeux.
Voilà. Et de vendre des
jeux. Leur jeu en tout cas.
Effectivement, Untitled Goose Game est déjà millionnaire. Donc voilà, n'hésitez pas.
Surtout que depuis la France, parfois on entend parler du traitement des Amérindiens, des peaux rouges comme on les appelait à une époque, qui n'est pas franchement reluisant. Ils sont un peu parqués dans les réserves, etc. Mais en Australie, ce qui se passe avec les aborigènes, c'est c'est pas beaucoup mieux, tu vois. Ils sont
même pire, je crois.
C'est peut-être même pire, ouais.
Je crois que c'est pire.
Et pour en avoir déjà parlé avec des Australiens, la gêne était palpable à chaque fois que tu évoques le sujet, parce qu'ils sont vraiment
ils sont dans
l'oubli le plus total, quoi.
Au banc de la société.
Ouais, vraiment.
Voilà, donc bravo.
Donc, bonne initiative, effectivement, de House House. Et merci à Loi généreuse, n'est-ce pas? C'est l'heure du fail maintenant. N'est-ce pas, Camille?
Exact, on en a parlé en début de podcast, le coronavirus qui touche la Chine. Et du coup, bah, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait le Taipei Game Show qui est organisé comme chaque année donc à Taïwan. Et là, malheureusement, bah, en fait, il a été annulé puisque l'OMS a déclaré l'état d'alerte international pour le coronavirus. Et comme les réunions, les rassemblements, etc. sont potentiellement, même c'est certain, un moyen de transmettre le virus, ils ont tout simplement décidé d'annuler en fait ce salon. La déclaration exacte du salon est la suivante. Donc l'OMS a déclaré l'état d'alerte internationale alors que le coronavirus à Wuhan se propage. Étant donné que les rassemblements accroissent les probabilités de transmettre les infections, nous avons décidé de repousser le Taipei Game Show à cet été. Le lieu restera le même, le hall 1 de Taipei Nangang Exhibition Center. Les dates précises seront annoncées par le comité dans les jours prochains. Voilà. En sachant qu'en plus, le virus, même s'il est plus ou moins contenu, il y a eu quand même 200 décès.
Il se porte bien.
Non, plus. Ouais. Presque 500.
Alors, presque 500, mais d'accord. Bah, j'ai pas suivi, je t'avoue.
Le maître des chiffres, cherche pas.
Voilà. Et du coup, et des milliers et des milliers d'infectés, donc forcément, ils font ce qu'ils peuvent pour réussir à contenir tout ça. Et si c'est pour pas propager sur l'île de Taïwan, c'est tout aussi bien.
Et ça changera aussi un tout petit peu le calendrier d'annonce de certains éditeurs, puisque on sait qu'a priori Sega devait annoncer un nouveau jeu au Taipei Game Show, donc ça sera forcément reporté à une date ultérieure.
Ils le feront à l'ancienne sur internet, et c'est tout.
Mais du coup, est-ce que cet été, entre l'E3 et la Gamescom, est-ce que c'est vraiment un truc. Est-ce que c'est vraiment un bon moment pour faire un salon à Taïwan? Je suis pas certain.
Ouais, mais le Taipei Game Show, c'est. Ça n'a pas encore pour l'instant l'envergure internationale d'un E3 ou d'une Gamescom. C'est vraiment plus destiné au marché local et aux gens de là-bas. Même si c'est vrai que parfois il y a des trucs qui en sortent et on en parle un peu, mais ça reste pas quand même un salon
plus
majeur
confidentiel.
C'est pareil que c'est comme la Paris Games Week, par exemple, tu vois, à l'étranger, sauf quand il y a une conf Sony, genre en Chine, personne parle de la Paris Games Week. Tout le monde s'en fout.
Tout à fait. Voilà, donc ce fail, merci le coronavirus qui est en train de bouleverser un peu pas mal de choses, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. À force de manger n'importe quoi, n'est-ce pas, les amis? Et si on se disait...
Rendez-vous dans 10 ans?
Non, rendez-vous il y a 10 ans.
Oh, ok.
Sur Gameblog. Thomas, il paraît que Shenmue 3, l'espoir fait vivre.
Eh ouais, il y a 10 ans, tenez-vous bien, Julien Hubert nous parlait de Shenmue 3.
Julbert.
En nous précisant qu'une belle lueur d'espoir était en train de luire, puisque Sega, en fait, en appelait carrément aux différents constructeurs, donc à savoir Microsoft, Sony et Nintendo, pour essayer de gratter une exclusivité et évidemment un financement pour mettre en chantier un certain Shenmue 3. Donc c'était évidemment il y a 10 ans. Autant vous dire que ça n'a pas forcément fonctionné comme ça.
Cet appel d'une efficacité incroyable.
On pourra pas leur reprocher de ne pas avoir tenté énormément de choses pour que Shenmue 3 devienne une réalité.
C'était timide, hein. C'était quand il fallait répondre à une question dans un média. Je pense pas qu'ils soient vraiment allés en réunion avec Microsoft, Sony et Nintendo pour leur dire s'il vous plaît financez Shenmue.
Eh bien figure-toi que ce sont les impies comme toi, mon cher Romain, ceux qui se fichent du sort de la saga Shenmue qui porte peut-être la responsabilité, puisque à la toute fin de cette news, Julo nous invitait à prier fort justement pour que ça arrive, et force est de constater que vous n'avez pas fait votre travail, monsieur Mahut, et il aura fallu évidemment attendre quelques années de plus, mais Shenmue 3 a fini par arriver.
C'est vrai que s'il y a quelqu'un qui doit se reprocher de ne pas avoir soutenu la licence depuis 20 ans, c'est moi.
Je te remercie de le reconnaître, c'est tout à ton honneur.
Franchement, j'ai déconné. Et ce qui est marrant, c'est que...
C'est de votre faute.
Tu dis que c'est il y a 10 ans, et l'histoire c'est un éternel recommencement, parce que là, ça y est, les fans maintenant commencent à leur campagne, ils commencent à réclamer Shenmue 4.
Le 4, le 5, le 6, le 12.
Avec ce qui s'est passé sur Shenmue 3 et sur Shenmue 1 et 2 HD un an avant, je pense qu'on a compris que maintenant, il fallait plus trop demander à Sega quoi que ce soit.
Il faudra écrire « prier encore plus fort ».
Ouais, « prier encore plus fort », ouais. Apparemment, des petites choses sont en train de se faire.
Des choses se passent.
Ça va être un processus très lent. Et encore plus compliqué que pour Shenmue 3, parce que là maintenant on sait, le commercialement parlant, ce que Shenmue représente, quoi. Donc bon, ça a pas, ça facilite pas les
Kickstarter.
Moi je pense que ça serait la pire erreur, les amis. C'est la pire erreur qu'ils pourraient faire dans un Kickstarter.
Statut, c'est compliqué. Exactement. Il y a 10 ans sur Gameblog, on vous parlait aussi de choses beaucoup moins réjouissantes et
sad,
prête pas forcément à rire, puisque Namco annonçait des licenciements quand même assez massifs, puisque c'était 10% des effectifs qui allaient foutre le camp Manu Militari. On sait que 5 ans auparavant, le rapprochement avec Namco et Bandai avait été évidemment commencé, et au bout d'un moment, bah, c'est comme dans toutes les grosses entreprises qui fusionnent, il y a trop de monde, il y a des doublons, il y a des gens qui occupent les mêmes postes, et on n'a pas besoin d'avoir autant de monde justement pour cumuler ce genre d'activité. Et du coup, c'était pas moins de 630 personnes donc qui allaient devoir être mis à la porte. Alors évidemment, en bon politique, les responsables de Namco essayaient de temporiser en disant que ça allait surtout être des départs à la retraite, pas remplacés, des départs volontaires, le discours qu'on entend
discours classique, ouais,
à peu près à chaque fois. Tout ça pour que l'entreprise gagne, tenez-vous bien, en flexibilité et en rapidité, puisque cet énorme groupe devenait une machine un peu trop importante à faire bouger. Donc voilà, on avait le discours classique, sachant qu'en plus Namco préparait de l'outsourcing, en précisant que tout développer en interne, c'était quand même un peu la méthode du passé, qu'il allait falloir déléguer et aller chercher des talents dans des studios extérieurs qu'on n'aurait plus à payer une fois le chantier terminé.
Je pense qu'ils ont, je pense que dans les gens renvoyés, il y a eu beaucoup de gens à la localisation des jeux, des gens responsables de la traduction.
Je vois où tu vas en venir.
Je pense que ces postes n'ont jamais été remplacés dans les années suivantes.
Après, parce qu'ils étaient plus de 6000, ils étaient plus de 6000 à l'époque quand même, c'est pas mal. Hein.
Bah la fusion de, quand même de deux géants, Namco d'un côté, et Bandai de l'autre, parce qu'à l'époque ça pesait quand même encore un petit peu, les jeux Namco, Tekken, tout ça, enfin voilà.
Tekken, ça pèse toujours aujourd'hui. Hein.
Ça pèse toujours aujourd'hui. Le seul petit truc rigolo, si on est un tout petit peu sarcastique, de l'époque,
et c'est
qu'en fait, non pas trop. C'est qu'en fait cette même année 2010 où on a remercié donc 630 personnes, Namco Bandai récupérait un trophée rentré au Guinness Book pour, tenez-vous bien, le plus grand nombre de pubs pour un seul et même produit.
Ah ouais.
C'était Solato Robo, et il y avait eu 100 spots différents qui avaient été diffusés à la télé japonaise. Donc comme souvent, la vie est une question de priorité. Voilà.
Voilà où est parti l'argent, en fait.
Exactement.
Dans les spots.
De ce climat difficile de crise.
Merci. Et pour finir sur cette petite séquence, un autre revenant dont il est question aujourd'hui.
C'est mort pour le remake.
Exactement, Final Fantasy VII.
Il y a 10 ans déjà.
Pas de remake. On disait que ça commençait à sentir le roussi.
C'était faux.
Mais pourtant, la déclaration venait.
Les plans changent.
Ouais, mais c'était Yoshinori Kitase en personne, quand même, producteur de Final Fantasy VII Remake, qui s'exprimait justement sur l'éventualité de transformer les aventures de Cloud et consorts, en expliquant que c'était quand même un peu difficile de réaliser des jeux sur PlayStation 3 avec un style similaire à celui des jeux de la première PlayStation. Et si vous vous rappelez, justement, il y avait eu une petite vidéo, une démo technique qui avait été présentée par Sony en 2006 et qui nous laissait imaginer ce que pourrait donner justement Final Fantasy VII.
Je m'en souviens pas du tout.
Remake sur PS3, ou en tout cas FF7 porté sur PS3, et ça vendait déjà du rêve, et évidemment on retrouvait déjà à l'époque la cultissime séquence d'ouverture avec Aerys, le dézoom sur la cité de Midgar, et le visuel de Cloud qui était bien plus marqué, qui avait un air beaucoup plus asiatique, beaucoup plus raccord finalement avec ce qu'est Square Enix. Bon, on sait qu'il aura fallu attendre quand même un certain 15 juin 2015 pour que le jeu soit finalement annoncé comme une exclusivité PS4 pour l'instant, j'ai envie de vous dire, et une sortie décalée au 10 avril 2020, comme vous le savez désormais, puisque la date du 3 mars ne sera pas tenue. Voilà, ça c'était les images de ce qu'aurait pu éventuellement donner FF7 sur PlayStation 3.
Mais cette justification du travail que ça représentait de faire un remake de FF7, c'est un truc qu'ils ont, un postulat qu'ils ont maintenu super longtemps. Je me rappelle avoir vu cette déclaration, enfin un équivalent, dans de nombreuses interviews, parce que c'était une requête qui revenait quand même assez fréquemment.
Saloperie de fan.
Et je me demande ce qui a basculé, qu'est-ce qui leur a fait dire à un moment, si finalement maintenant on peut le faire. Peut-être quand ils ont décidé de changer le gameplay.
Et de le découper en épisodes, en disant on va développer une partie à la fois. Ça prendra du temps, mais surtout ça rapportera gros, puisque les gens vont devoir acheter 3, 4, 5 épisodes. Enfin voilà.
Parfait, bah écoute, merci beaucoup Thomas pour tout ceci, ça nous rappelle plein de souvenirs
et ça nous rajeunit pas,
et magique, exactement. Et si nous passions, chers amis, au thème number one, les ventes des consoles sur le dernier trimestre.
Les bilans des constructeurs.
Exactement.
Et pour le coup, c'est Nintendo qui nous a balancé quand même le plus d'infos.
On commence par Nintendo, effectivement.
Il y a pas mal de choses à dire, même si les autres constructeurs ne sont pas en reste.
Bah, c'est logique, parce que ce sont eux qui sont dans la position la plus confortable. Et ils ont de quoi se vanter, donc c'est normal.
Ils sont pas
de
bourse, surtout. Donc.
C'est voilà, à peu près ce qu'ils font.
C'est ceux qui se portent le mieux qui déroulent, en principe.
Bon, ça a été l'heure des bilans pour un petit peu
ouais,
tout le monde.
Justement.
Shuntaro Furukawa s'est entretenu évidemment avec des actionnaires comme le veut la tradition. Et pour le coup, on a.
J'avais pas vu ce qu'il y avait écrit sur le.
Non, mais rien du tout, tout va bien.
Rien du tout, tout va bien.
Tout est parfaitement raccord. Et effectivement, on vous promettait des chiffres, il va y en avoir. On apprend d'abord que les ventes de Switch Lite ont un petit peu diminué, mais ne vampirisent pas celles du modèle original. Ce qui est quand même
c'est
le souhait de Nintendo depuis le début, c'est de réussir à vendre les deux machines. La part de la Switch Lite à son lancement, c'était 43% des modèles, c'est tombé à 30% là aujourd'hui. Et Furukawa interprétait ça comme une arrivée. Lui en tout cas pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont équipés d'une seconde console pour avoir un truc vraiment purement nomade et que la sortie de Pokémon épée bouclier n'était pas étrangère justement à ces achats puisque les gens qui seraient venus du jeu mobile de Pokémon Go ou ce genre de truc auraient eu envie d'avoir une console purement portable. Bon, du coup, ça se présente plutôt bien pour eux parce que ça permet d'augmenter les ventes de la machine au global.
Et c'est ce qu'ils veulent faire à chaque fois de toute façon.
D'ailleurs, en parlant des ventes de la Switch, on a passé la barre des 52 millions.
Ah, la barre ?
Bah ouais. De consoles écoulées dans le monde et ça nous donne en fait 10 millions de consoles qui ont été vendues entre le 1er octobre et le 31 décembre, ce qui est quand même pas dégueulasse parce que j'ai regardé un peu les chiffres de vente de la Wii à la même époque, elle était à 56 millions, c'est-à-dire que la Switch est pas très loin derrière la courbe de vente de la console de salon la plus vendue de Nintendo, donc c'est quand même pas rien.
On s'en rend pas forcément compte, mais elle a déjà dépassé la Super NES. Ce qui est quand même
un sacré pari déjà
chez Nintendo. Elle est encore un peu derrière la NES qui elle est à un peu moins de 62 millions, mais au rythme où vont les choses, ça devrait être assez
elle
rapidement
devrait dépasser assez facilement.
Ouais. Assez rapidement passé, ouais. Par contre, ils ont vendu plus de Switch que de Super NES, mais ils ont vendu moins de jeux pour l'instant que de jeux Super NES.
En ratio par rapport à chaque machine.
Il y a même pas 100, vous devez avoir 50 60 millions d'écart, donc ça c'est pareil, ça va être
balayé
bouclé rapidement
à la fin de la vie.
Mais
oui,
là tu vois tu parles du point où en était la Wii à une époque équivalente et il y a pas mal d'analystes et tout qui en fonction des courbes etc qui estiment et le calendrier etc qui estiment que la Switch passera les 100 millions elle aussi parce qu'elle a fait une année 2019 qui était historique par exemple aux États-Unis, c'est la console.
C'est
elle a fait la meilleure année,
vendu,
la meilleure année pour une console cette génération. Et elle a fait les meilleures fêtes de fin d'année de toute la gêne aussi aux States. Mais après, ouais, faut réussir à refaire une année comme ça cette année, surtout que t'as la concurrence qui va débarquer.
Bah, en général, c'est comme toutes les consoles, t'as un pic et après ça redescend petit à petit. Ouais. Sauf s'il y a un énorme jeu qui sort, éventuellement ça peut.
Si baissent les prix aussi, s'ils font une baisse
de prix. Les baisses de prix, ça joue aussi.
Évidemment.
Oui, et elle est pas encore arrivée, ouais.
Non, effectivement.
Concernant les 100 millions, l'un des seuls trucs qui m'embête avec notamment l'analyse de notre cher ami Pacteur, qui est l'un justement des analystes à s'être prononcé et à avoir annoncé ce chiffre-là, c'est qu'il partait justement sur des années assez semblables et des ventes de consoles de 20 millions par an. Et comme vient de le rappeler Traz, effectivement, on a quand même une érosion passé un certain moment justement dans la vie d'une
console.
Ce qui est logique, hein. Et tu vois les ventes quand même un petit peu baissées. Mais pour le coup, Furukawa a aussi estimé que la console n'en était qu'à la moitié de sa commercialisation.
Ce qui
finalement.
C'est étonnant quand même.
Ce qui nous donnerait au moins 6 à 7 ans peut-être 7, 19, 20, de durée 20, 23, de vie.
Je trouve qu'il y a encore les rumeurs d'une Switch.
Moi je pense que c'est
pro.
Je pense que c'est ça qui va être déterminant pour les 100 millions. Parce que tu vois par exemple.
Si elle sort en 2021,
si tu vas sur le site hardware de Nintendo, enfin le site corporate, et que tu as les listings de toutes les ventes des consoles, par exemple la Game Boy et la Game Boy Color sont considérées comme une seule et même machine pour le total des.
C'est une déclinaison quoi.
Pour le total des ventes. Donc effectivement, s'ils te sortent une Switch Pro, ça peut relancer la machine et rajouter 2-3 ans de. Après, ils pourront jouer sur les mots et dire que c'est la même, enfin que c'est la même continuité, etc.
Bah, ils compilent bien tous les modèles de DS, donc.
Oui, aussi. Mais le truc, c'est que s'ils sortent une Switch Pro, tous les jeux qui sortent sur Switch Pro tourneront pas forcément sur la Switch normale, tu vois, il y a peu.
Alors,
après, il faudrait que ce soit plus beau quand même.
Je vais m'avancer un tout petit peu. Vous vous rappelez des jeux exclusifs à la New Nintendo 3DS?
Oui, et des jeux DSi aussi. Enfin, voilà. Très très peu. Mais...
Il y en a eu deux, je crois.
Oui, oui, oui. Et c'était bidon justement parce que ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça n'a pas fonctionné. Les gens n'étaient pas très contents, quoi.
Mais alors, dans ce cas-là, quel intérêt de sortir une Switch Pro?
Bah, comme pour la PS4 Pro,
c'est bah, je pense que ça améliore les graphismes et
voilà. Améliorer ça va, les jeux,
c'est plus rapide
au
niveau du FPS éventuellement.
Mais une meilleure résolution,
etc. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu vois, ils ont dit justement, ils ont pris les devants dans leur session d'annonce des résultats, disant qu'il n'y aurait pas de Switch Pro, enfin de nouveaux modèles de Switch en 2020, mais ils précisent bien en 2020. Donc, avec toutes les informations qu'il y a eu au sujet des chaînes de production, etc., des fournisseurs de composants, machin, il y a clairement un truc qui se trame au sujet d'un nouveau modèle de Switch. Mais bon, pour le coup, ça sera pour l'année prochaine, pas avant l'année prochaine certainement.
Éventuellement,
et je trouve ça pas con de leur part d'avoir dit ça, sachant que t'as les Switch Animal Crossing, etc., qui vont sortir.
Ils sont très forts pour ça, Nintendo. Ils
parce qu'on le sait, on l'a vu historiquement, ça les fonctionne. Joueurs, quand il y a un truc qui les intéresse, qui va arriver, ils sont prêts à attendre et ils arrêtent.
De malade,
et ils arrêtent totalement leurs intentions d'achat en attendant. Donc,
surtout qu'on sait que ça peut arriver maintenant. Il y a eu des précédents, on sait qu'on peut avoir une espèce de mise à jour hardware pendant une génération, donc ce serait pas déconnant de la part de Nintendo de le faire aussi. Et effectivement, les gens qui sont actuellement en train de se poser la question est-ce que j'achète ou pas, sont peut-être dans une position attentiste.
Donc là, le fait
t'attends ou une baisse de prix ou un nouveau modèle.
Voilà, donc si t'es pressé, tu vas dire bon, c'est pas avant l'année prochaine, donc j'ai le temps de rentabiliser quand même, d'y jouer, etc., donc c'est peut-être pour ça. Mais s'ils veulent faire les 100 millions, ils pourront pas rester, je pense, avec les modèles actuels, oui. D'autant plus que tu vois que la Switch Lite, les ventes ont déjà baissé par rapport à ce qu'elles étaient au lancement. Donc il va falloir, parce que les jeux c'est bien, mais quand t'arrives à un certain parc, les gens continuent d'acheter des jeux, mais ils ont pas besoin de 36 consoles non plus, quoi. Donc faut que ça avance à ce niveau là
Et puis il y a un autre truc qui marche.
Tu parlais du marché chinois aussi.
Qui marche bien chez Nintendo. Effectivement, le lancement chinois assez récent de la Switch. Bon, alors c'est compliqué pour
c'est
l'instant.
C'est pas la bonne période, on va dire.
Oui, mais même en dehors de ça, Furukawa a reconnu lui-même que pour l'instant, le chiffre n'était pas vraiment satisfaisant, que le marché avait.
Mais c'est toujours compliqué de percer sur le marché chinois.
Un peu de mal à décoller. Lui, il mettait ça justement sur la pénétration énorme des jeux PC et du jeu mobile en Chine, et qu'il allait falloir prendre un petit peu le temps de s'installer.
Vous savez quoi, la Chine, c'est vraiment c'est le monde du PC et du mobile, quoi. Donc forcément, ouais, c'est un peu difficile pour les consoles de se vendre. Bah, d'ailleurs, la PS4 et la Xbox, honnêtement, c'est
ah bah c'est peanuts, hein, là-bas.
C'est vraiment ridicule. Hein,
ils y sont parce qu'il faut y être, et ils essaient de voir le terrain. Mais
les habitudes sont de jeu assez tellement ancrées.
Bah oui.
C'est difficile de.
C'est un monde à part.
D'un seul
la
coup,
Chine,
dire aux gens que leur machine qui leur sert à tout chez eux, y compris pour jouer, ah bah non, il faut en acheter une autre, mais qui elle sert juste à jouer. Alors il y a des gamers en console, je veux dire en Chine, mais c'est par rapport à l'envergure du marché sur le total, c'est peanuts. Et pourtant, tu vois, il y a Sony par exemple qui fait des initiatives pour sortir des jeux développés en Chine sur PS4 pour essayer d'attirer plus les joueurs chinois. Mais je pense que ça n'a pas encore pris comme ils le voudraient. Je parle aussi bien pour Sony que pour Nintendo, enfin et Microsoft,
oui,
n'entendons pas. Mais
Apple, je
pense qu'en Chine, il va vraiment falloir faire preuve de patience.
Ouais, bah, c'est pareil. Hein.
Quand
c'est
tu
pareil.
Vois que même en Chine, Nintendo a accepté de prêter ses jeux au Shield.
Ouais, Nvidia Shield, ouais.
Donc il y a des jeux Nintendo qui sortent sur Nvidia Shield, donc tu sens une stratégie qui est vraiment à part sur le marché chinois par rapport au reste, parce qu'il faut
c'est
faire avec les spécificités et les habitudes des joueurs
chinois.
Après,
ils sont lancés plus vite que sur leur dernière machine. On a un laps de temps, un écart en tout cas entre les sorties occidentales et chinoises qui s'est vachement réduit par rapport aux générations précédentes.
Il y a encore 5-10 ans, c'était pas du tout la même chose.
Mais c'est aussi parce que les réglementations ont changé en Chine, parce que le gouvernement chinois, il était assez strict par rapport à ces choses-là jusqu'à présent. Ouais. En plus, c'était des produits japonais, etc. Donc
ça s'ouvre tout doucement, mais
il y avait plein de choses qui jouaient.
Mais c'est pareil pour le mobile, quoi. T'as Huawei qui, Samsung qui domine le marché, et pour Apple, c'est très difficile de pouvoir s'implanter en Chine, quoi.
T'as toujours le sentiment anti-américain. En plus, entre les deux, c'est toujours la guerre commerciale. Toi, tu me fermes ça, donc moi je te ferme ça. Tu veux jouer à ça, bah, y a pas de souci.
C'est un peu une guerre froide, en fait.
Tu pourras pas rentrer. Ouais, bah oui,
tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que le
coronavirus,
il y a quelques mois, il y a les histoires de tarifs là avec la Chine sur l'importation des produits chinois aux États-Unis. Et oh ouais, bah, apparemment, les consoles qui ont des composants venus de Chine, ce tarif-là aurait pu faire exploser les prix de vente des consoles. Mais pour l'instant, les consoles sont protégées de ce truc-là. Elles ne seront pas concernées par les tarifs, comme on est en train de parler de la Chine.
On peut toujours s'arranger.
Oui, voilà. Pour l'instant. Mais c'est marrant, c'est qu'il y a plein d'exceptions. Genre, on va faire des tarifs sur tous les produits chinois.
C'est bizarre.
Sauf celui-ci. Il y a chaque lobby, tu sais, qui va dire « Ah non, attends, nous, ça nous mettrait vraiment dans la merde. »
Tu connais les régimes de retraite exceptionnels ?
Et oui, voilà. C'est un régime universel,
mais pas pour tout le monde. Et alors, dernier petit point sur Nintendo, puisque il y a quelques années, Nintendo a daigné se lancer sur le jeu mobile. Et pour le coup, ça marche plutôt bien, parce que ils ont généré quand même $1 milliard depuis le lancement de Miitomo. Et Super Mario Run, accessoirement, qui a quand même rapporté un petit peu plus d'argent.
C'est vrai.
Et pour
Miitomo,
le coup. Mais j'invente rien.
Miitomo
c'est la première application Nintendo. Ouais, ouais. C'est pas ma faute. Et pour le coup, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est Fire Emblem Heroes qui est le jeu le plus rétributeur en termes
C'est fou, hein.
En termes de monétisation.
60%.
C'est assez dingue. C'est 60% du milliard de dollars.
Soit 600 millions. Je compte bien.
Hein. C'est incroyable.
Merci le Japon, je pense. Hein,
sûrement. C'est le premier marché. Ouais. Les joueurs japonais sont ceux qui ont dépensé le plus d'argent.
Ils arrêtent les consoles de
jeux
au Japon depuis 4-5 ans. Je sais pas ce qui leur arrive. Parce que tout sur mobile, c'est hallucinant.
Ça fait presque 10 ans qu'ils jouent à fond sur mobile au Japon. Donc,
Après, tu vois, la Switch, elle cartonne au Japon aussi. Hein. C'est pas que les consoles sont forcément mortes au Japon, c'est juste qu'il faut trouver le produit qui intéresse les Japonais, qui parle à leurs attentes et leur style de jeu, etc. Et visiblement, là, ils ont réussi à taper dedans avec la Switch. Mais ouais, pour le jeu mobile et Nintendo. Je pense pas, même s'ils ont fait 1 milliard, ce qui est quand même un chiffre symbolique, je pense pas qu'ils en sont au point où ils aimeraient en être. Parce que quand tu regardes le graphique avec les différents... Il y a Fire Emblem qui est très très loin devant, mais un jeu comme Super Mario Run... Mm. Tu sais, je me souviens, moi...
Il a fait combien, lui ? Je sais pas du tout.
Il est dans les plus bas...
Ils sont pas satisfaits du tout. Miyamoto s'était exprimé à un moment donné en disant qu'ils étaient très 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 loin, justement...
Moi, j'ai pas joué, ça m'intéressait pas du tout.
De réussir à atteindre leurs objectifs. Il n'y avait pas un taux de transformation très très élevé, en fait, entre les gens qui téléchargeaient la version gratuite et ceux qui voulaient bien débourser quelques dollars.
Et même Mario Kart. Tu pourrais te dire, Mario Kart, c'est une licence qui est peut-être la plus populaire de Nintendo.
Il est bien fait, le jeu, en plus, c'est ça le pire.
Ouais, mais
il est
monétisation.
Il est pas mauvais. Quoi.
Pour un jeu mobile, ça va, mais le problème, c'est la monétisation et le modèle économique qui a été choisi pour ce truc. Il est un peu honteux. Mais tu vois, quand ils ont annoncé Super Mario Run, je m'en souviens très bien. C'était au moment où Sony annonçait la PS4 Pro. Mm-hmm. Je me rappelle, j'étais à New York pour l'annonce du truc. Et nous, comme on était à la conf PlayStation, on avait raté le truc. En fait, on avait pas pu le suivre en temps réel. Et on était tous les journalistes après. Et on regarde tous nos téléphones. Et là, on voit Miyamoto à la conf Apple qui annonce un Mario sur iPhone, on se dit putain, on avait l'impression qu'il s'était passé un truc de dingue.
Et tu l'avais dit, non ?
Et tu vois, c'est retombé.
Je l'avais prévu.
Ouais.
Je l'avais prédit 1000 ans avant.
Et selon mes sources. Et le truc est retombé assez vite. Super Mario Run. Donc ouais, je pense pas que Nintendo en soit au point où il aimerait en être vis-à-vis du mobile.
Je pense qu'ils sont cherchés un petit peu quand même au début et qu'ils commencent à voir à peu près ce qui marche et ce qu'il faut continuer.
Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, niveau manière de vendre les jeux sur mobile, ils ont fait plein de trucs différents. Parce que tu vois, Mario Run, t'avais une version gratuite qui était un peu comme une démo. Ensuite, tu payais une fois pour tout débloquer. Mario Kart, c'est plus du gacha avec des mécaniques plus de free-to-play traditionnelles.
Des personnages, des skins.
Ils savent pas trop sur quel pied danser. Je pense qu'ils ont pas encore trouvé la solution parfaite. Parce que Pokémon Go, c'est encore un cas à part parce que c'est pas forcément totalement géré par Nintendo. Enfin, seulement Nintendo, quoi. Il y a d'autres facteurs.
C'est leur fait quand même des revenus, on est d'accord.
Ah bah oui, ils touchent de l'argent sur Pokémon
Go
aussi.
Et beaucoup de visibilité sur la marque.
Ce qui compte aussi pour d'autres choses.
Quand tu sors des jeux intégralement payants.
Ensuite, voilà. Next.
Après Nintendo qui continue son petit bonhomme de chemin. Et si on parlait de Sony ? Parce que Sony a dévoilé ses chiffres aussi du dernier trimestre.
Sony, on commençait à sentir...
Le vent tourner. Ou pas.
La PS4 est sortie en 2013 et tu commences forcément au bout d'un moment, surtout quand l'arrivée d'une console de la console suivante se précise, au bout d'un moment ça commence à s'essouffler.
T'as l'impression qu'il la délaisse complètement.
Et là, la,
qu'ils ont, ils sont passés à autre chose quoi, quelque part.
Bah ça c'est.
Il y a les jeux qui vont arriver les derniers, et puis voilà, c'est tout.
Ouais, ça c'est quand même bien calmé en termes de com autour de la PS4, ouais, voilà, etc. Mais c'est normal, hein, c'est le cycle.
Oui, c'est logique.
Faut préparer le terrain pour l'après.
Mais surtout, j'ai l'impression que sur cette gêne, ils ont vraiment peur de Microsoft. Je sais pas pourquoi. Ils se disent, ils préparent un gros truc. Faut pas qu'on se loupe quoi.
Bah et en plus, enfin.
Et à juste titre, je pense.
Tu peux quand même préparer ta prochaine génération de manière sereine quand t'es à 108 millions de,
oui,
108 millions de consoles.
T'as rempli ton contrat, quoi.
Donc, enfin, voilà. La PS4, c'est un immense carton.
Oui. Et elle va continuer à se vendre encore quand ils vont baisser encore les prix.
Après, quand la nouvelle génération sort, les consoles précédentes, elles passent dans une nouvelle phase où les prix baissent beaucoup et elles s'adressent plus aux familles, aux jeunes enfants, etc.
Tu penses qu'ils vont faire une PS4 Slim ?
Mais putain, c'est exactement la question que j'allais poser.
Ouais, tu vois, je l'ai dans ton
incroyable.
Esprit. Vas-y, pense à une couleur.
Vas-y.
Vert.
Non, bleu.
Ah, merde.
Parce que c'est vrai que la PS3, ils avaient refait un dernier modèle à la toute fin. Absolument horrible.
Le barbecue,
c'est la plus moche des trois.
C'est
la plus moche des trois.
C'est vraiment un truc bizarre.
Je connais personne. Le grill, je connais personne qui l'a d'ailleurs.
Le grill, elle était tellement fragile avec son capot.
Le truc est tellement chum.
Pépé Grillo. Bah voilà.
C'est le mouvement 5 étoiles, c'est ça.
C'est ça.
T'es dingue.
Hein. Et donc oui, non, je ne sais pas s'ils feront une nouvelle PS4 Slim, mais en tout cas, oui, ils vont continuer à en vendre encore pendant quelques années. Mais on n'atteindra plus les chiffres annuels qu'on a pu atteindre au sommet de cette génération.
Mais justement, par rapport aux dernières news, notamment celle que tu as écrite récemment, Romain, il semble, si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression qu'ils sont hyper fébriles quand même, Sony, par rapport au fait de... Bah, de pas dépenser trop d'argent, de faire super gaffe à leur budget et compagnie, quoi.
Ah bon, tu trouves ?
Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont hyper ric-rac en se disant il faut qu'on fasse attention.
Bah, de toute façon.
Bah, au marketing, combien ça va nous coûter ?
De toute façon,
qu'on va le lancer.
D'une manière
générale. Par rapport au prix, justement, auquel Sony veut lancer sa PS5 par rapport à. Par rapport à la Xbox, justement, bah, ils attendent jusqu'au dernier moment, quoi.
D'une manière générale, on sait à quel point. PlayStation est essentiel à la santé financière de Sony.
Mais c'est presque flippant quoi.
Maintenant c'est devenu
c'est la
un élément
machine.
Central de Sony Corporation dans son ensemble.
C'est la locomotive.
Et en plus PlayStation sait ce qu'un ratage sur le prix de vente de la console peut l'impact que ça peut avoir
derrière,
sur toute la génération.
PS3.
Ouais, PS3 ou même.
Ah bah ça oui.
Et ils ont même fait un sacré coup à Microsoft avec Xbox One en annonçant.
C'était pendant le 3 ça.
Après la Xbox One.
C'était comme
que eux ils seraient 100$ moins cher. Bon, ils avaient pas de caméra, mais malgré tout, ce que les gens voient, c'est 100$ moins cher. Et ça a vachement contribué à faire du mal.
En tout cas,
le
retentissement était énorme à l'époque. Tout le monde a dit c'est bon. Ouais. On va s'acheter la console de Sony.
Donc c'est pour ça aussi, je pense qu'ils veulent pas dégainer trop vite sur l'annonce de prix. De toute façon, ils ont même pas montré la console.
Oui,
donc qu'est-ce qu'ils vont annoncer le prix ?
On a rien vu.
Mais ils veulent pas.
À part le logo.
Parce qu'ils savent que Microsoft essaye d'apprendre de ses erreurs. Donc ils vont faire beaucoup plus attention sur cette génération-là. Je parle de Microsoft. Hein. Ils vont faire beaucoup plus attention sur cette génération-là.
C'est pour ça qu'ils sont sur ses gardes
que sur l'autre. Comme Sony, ils doivent savoir que Microsoft fait gaffe. Eux, ils doivent être encore plus vigilants.
Exactement.
Pour pas laisser la moindre chance à Microsoft de se replacer. Surtout que là, maintenant, il y a plein de nouveaux enjeux. Outre les machines en elles-mêmes, il y a toutes ces histoires de services que tu dois implanter. Et là, pour le coup,
les abonnements, les machins.
Pour le Game Pass, en tout cas, et l'équivalent PlayStation Now, Sony est un peu en retrait par rapport à.
Mais c'est vrai que Microsoft a frappé un grand coup.
Ils ont été les premiers à y aller à fond. À ce niveau-là,
plus le X Cloud aussi, qui vient.
Bah, mais tout, il y a plein de nouveaux enjeux sur cette génération-là.
D'où le côté, faut pas se louper, quoi.
Ah oui. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, maintenant, quand vous connectez à votre PS4, parfois vous avez des, tu sais, il y a les carrés pour les jeux que vous utilisez, les différents menus.
Ils te forcent un peu la main.
Et
ouais.
T'as des carrés PlayStation Now qui apparaissent maintenant.
Je l'ai vu il y a quelques jours. Ma première réaction était comment je vire ce truc.
Ouais, j'ai fait Start, supprimer.
Et Nintendo faisait pareil avec la 3DS, où de temps en temps, si tu passais à côté d'un point Wi-Fi, ils te balançaient une démo en cadeau qui arrivait sur ton dashboard aussi. et pareil il fallait la supprimer, mais c'était hey, regarde je suis gratuit, essaye moi.
Et le donc ouais, donc ils ont fait ça, mais je me rappelle de Philippe Cardon qui m'avait dit que oui, on est un peu en retrait sur sur le PlayStation Now,
Philippe Cardon,
etc.,
PDG de
parce
Sony
qu'on vous laisse et un des et peut-être même le boss de Sony Europe.
Non, il, je crois qu'il Sony, est si c'est ça, mais il est vice-président.
Vice-président de Sony Europe, enfin, c'est MBA, quelqu'un qui pèse lui aussi. Et il avait dit oui, on est un peu en retrait, mais là pour l'instant, on est vraiment en train d'essayer d'améliorer nos structures, etc. Et on fera vraiment le forcing quand on estimera qu'on est vraiment prêt techniquement à passer la seconde là-dessus. Donc il y a ça à gérer aussi. Et ouais, peut-être que Microsoft et Sony se regardent un peu.
C'est l'impression. Hein.
Pour histoire de savoir qui va y aller en premier, ce qui va se passer, pour essayer de réagir, parce que des fois,
faut il y en a qui avance un pion, l'autre il avance son logo, l'autre sa machine.
Et il faut pas se leurrer, hein, parce que.
Que
oui,
je veux dire,
ils doivent avoir des idées du prix de la console.
Mais, c'est sûr.
Mais si quelqu'un dégaine en premier et fait une annonce de ouf, ils changeront leur plan. Hein.
Faut être réactif.
C'est déjà arrivé que des prix de console changent presque du jour au lendemain. Bien sûr, nous, en tant que public, on n'était pas au courant. Mais des années après, quand les choses se savent,
tu découvres
que des prix de vente annoncés, t'as l'impression que c'est le fruit de réunions marketing pendant des mois. Alors qu'en fait, non, ils ont vu que l'autre allait faire ça. Ils se sont dit, oh là, faut pas qu'on soit à la bourre. Donc. On va faire ça. Donc beaucoup de choses peuvent encore changer d'ici l'annonce de la PS5, mais en tout cas excusez-moi, la PS4, 108 millions c'est pas mal, et 1,18 milliard de jeux, ce qui est quand même ouf. Et là ça inclut les jeux en boîte et les
jusqu'au 31 décembre dernier.
Au 31 décembre les jeux dématérialisés. Donc je sais pas s'ils vont vendre, enfin ils vendront des consoles forcément, mais là aussi ils ont encore pas mal de jeux à vendre aussi avec les sorties qui restent sur.
Il reste des gros trucs.
Sur cette remake de Last of Us Part 2, ouais. Ghost of Tsushima, enfin voilà.
Ça fait quelques dizaines de millions en plus qui vont arriver.
Et puis même sur cette année, juste pour finir par un chiffre, ils sont quand même plutôt bien partis pour remplir leurs objectifs de vente sur l'année fiscale, parce que l'année dernière on était resté à 18,7 millions de machines vendues, donc sur l'exercice fiscal 2018-2019. Ouais. Cette année ils visaient 13,7. Si
tu parles du dernier trimestre, on est d'accord.
Oui, enfin là pour toute l'année.
Sur
l'année fiscale 2018-2019, ils en ont vendu 18,7, si je dis pas de bêtises.
Ah, là, c'était plus que ça.
Là, ils visent 13,5 et ils sont bien partis parce
qu'ils sont à 11,1.
Au 31 décembre, ils étaient à 12,1 millions de consoles vendues. Donc,
je me rends pas compte, je pensais que c'était plus.
Il reste pas grand chose, même si on sait que le troisième trimestre de l'année fiscale qui englobe les fêtes de fin d'année est forcément plus porteur. C'est quand même plutôt pas mal pour une console qui
vont au moins faire 3 ou 4
quelques années au compteur et qui, une fois de plus, en termes de vente, est pas très loin des scores de la PS2 à la même époque de commercialisation. Donc on est sur une gêne qui se porte quand même très bien en termes de vente.
Après la PS2 c'est 155 millions.
Oh, c'est ça.
Donc là on en est à 108. Je l'imagine mal faire encore 50 millions de ventes sur les années qui lui restent.
Admettons qu'il lui reste peut-être 2-3 ans derrière avec une. Ouais.
Parce que là ils
vont faire une version ou pas,
pour cette année ils pensent 13,5. 13,5 millions en plus.
Enfin, ils feront un peu plus.
Donc
mais...
oui, mais après ça va continuer. On va dire il y aura peut-être deux autres années après.
2-3 ans peut-être. Ouais, max.
Donc s'ils arrivent à faire mieux que la PS2, ça serait quand même une sacrée performance. Ouais. Hein.
Mais bon, peut-être à 120, 125.
Quand on arrive à ce point-là, enfin ils ont fait mieux que la PS1.
Voilà, c'est que tout va bien.
Ouais, c'est. C'est une belle génération pour eux, clairement.
Et sur la PS5, ça va juste être de vendre des abonnements surtout. Ils vont donner la console.
Mais là, t'as vu.
Ils vont donner la console, tu t'abonnes 5 ans et voilà, t'as payé la machine.
Le PlayStation Now, il est disponible sur PC aussi. Hein.
Oui.
Il y a eu un sondage qui a été diffusé. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas réussi à trouver vraiment de trucs totalement. Enfin, qui me semblaient totalement fiables. Mais apparemment, PlayStation a envoyé un sondage à certains utilisateurs de Remote Play. Et alors j'étais étonné de pas le recevoir parce que j'ai beaucoup joué en
Remote Play. Moi ça marche pas pourquoi. Et
il posait différentes questions, tu vois, est-ce que par exemple vous seriez intéressé par une application Remote Play sur Switch. Donc tu vois la façon de voir les choses et tout, elle est complètement en train de changer. Il y a vraiment beaucoup de murs qui se brisent et le service et les abonnements c'est vraiment l'avenir. Quoi.
Avec Stadia qui est arrivé, Microsoft qui va faire pareil, qui va être jouable partout.
On sait que Stadia a fait trembler tout le monde, hein. Vraiment. C'est...
non mais je dis mais sur l'aspect jouer partout.
Oui.
C'est surtout ça qui est important.
Bah justement, voilà. En parlant de Microsoft.
Bah Microsoft, vas-y, tu peux y aller.
Ouais, pas mal ça.
Non, c'est
j'aurais presque pu l'inventer.
C'est vrai.
Par mégarde, avec
tu connais,
une langue qui fourche.
Qui va vendre 1 milliard de consoles.
C'est vrai.
Ouais.
Non, mais c'est évidemment les derniers à avoir publié également leurs résultats. C'est évidemment pas folichon sur tous les plans.
Oh, tout
alors,
de suite,
Microsoft, violence. Microsoft, la boîte dans son ensemble, ça va très bien. Eux, ils ont même revu leurs résultats à la hausse, etc. Mais la division Xbox, elle, c'est un peu plus compliqué.
C'est moins la teuf.
Moins 21% au troisième trimestre 2019. Par rapport au troisième trimestre 2018, avec moins 43% pour le hardware, donc sur les ventes de consoles. Ça, ils expliquent que c'est lié à la diminution des ventes de consoles, tout simplement, et à la baisse des prix de celles qu'ils vendent, en fait. Comme ils en vendent moins et elles sont vendues moins chères, donc forcément, ça
rapporte
joue.
Moins.
Moins 11% sur les contenus et services, ce qui inclut les jeux. Alors là, ils expliquent en partie que certains titres tiers on rapportait moins d'argent qu'avant et d'après les analystes ces jeux tiers ça serait Fortnite et Red Dead Redemption 2.
Bah oui, le gamin de Traz a arrêté de jouer donc ouais. T'as arrêté de claquer des fortunes dans Fortnite.
Je pense
Fortnite,
qu'il y en a pas mal
d'accord.
Ah mais je jouais pas sur Xbox donc
il a trois machines devant lui, il joue en même temps sur trois versions. Mais donc ouais, moins d'argent dépensé sur Fortnite et sur Red Dead et donc forcément ça joue sur ces chiffres là. Par contre la baisse elle aurait pu être pire que ça du
ça
côté
va, la baisse.
Hardware et services. Mais elle a été, enfin, ils ont sauvé les meubles entre guillemets avec le Xbox Live Gold et surtout le Game Pass. Ça marche bien, ça marche
bien
de
monté.
Mieux en mieux même sur la dernière période.
Il faut dire que c'est super avantageux aussi.
Le nombre d'abonnés Game Pass a plus de doublé.
Bah oui, mais quand tu fais des opérations à 1€ pendant 3 mois,
voilà, ça joue
forcément.
Ça joue aussi.
Parce que ça va perdurer, c'est ça l'intérêt aussi.
Bah apparemment, enfin, quand tu vois les gens qui utilisent le Game Pass en parler. Ils ne regrettent pas. Visiblement,
il y a
même plein
de
joueurs Xbox que je vois moi sur les réseaux sociaux, etc. T'as l'impression que la Xbox c'est devenu une machine Game Pass uniquement. Quoi.
Bah, c'est ce qu'ils veulent, hein, Microsoft. De toute façon,
oui, dans l'idéal,
c'est,
parce que les marges que tu réalises
dans
sur
futur,
du
c'est ça.
Sur du démat, c'est bien plus important que sur du jeu en boîte, etc. Bah, tu fais sauter des intermédiaires. Il y a plein de.
Et puis t'as des revenus réguliers.
Oui,
surtout.
Exactement. Des revenus,
tu peux faire un peu de prévisionnel sur ce que tu vas récupérer en termes d'argent, etc. Vas-y.
Non, vas-y, termine, parce que j'allais enchaîner sur autre chose.
Et Spencer disait justement que pour lui, c'était un modèle rentable. Je me pose encore beaucoup de questions, j'aimerais bien qu'on puisse décortiquer un petit peu dans ce que tu reverses, tu vois, quelle partie va au studio, lequel, sur la base de quels critères, comment est-ce que tout ça est réparti.
C'est bien défini au départ.
C'est un grand mystère, mais...
Ça doit être fait comme Netflix, hein. Les studios de cinéma et les studios de télévision et tout s'y retrouvent sur Netflix. Hein. Ils
quand t'es un diffuseur et machin, tu prends une partie. Celui qui a créé le jeu ou le film, il prend une partie.
Oui, surtout que mis à part les jeux Xbox Game Studios qui eux, arrivent Day One, la plupart des autres jeux sont déjà sortis depuis un moment, donc ils ont peut-être déjà fait leur beurre. Principalement, c'est bénéf en plus, tu vois, ce que tu obtiens via le Game Pass. En plus, apparemment, ça stimule les microtransactions. Ça...
Oui, c'est vrai, c'est pas faux.
Ils disent même que ça stimule les ventes global du jeu, parce
mais
que
t'as de l'engagement supplémentaire, tu te dis attends, c'est pas mal ce truc là.
Des gens qui vont essayer des jeux sur le Game Pass sont motivés curieusement à les acheter.
Donc, c'est logique.
À acheter les jeux. Ouais.
C'est comme Steam en fait, hein. Steam, tu joues à un jeu, admettons qu'on te donne un jeu même sur l'Epic Game Store, machin, on te donne un jeu gratos, tu vas aller sur Steam, tu vas aller sur Epic Game Store, tu vas avoir un autre jeu qui apparaît en pop-up ou je sais rien, ou recommandé par la communauté, t'as envie de voir ce que c'est. Tu lances la vidéo et t'as envie de l'acheter, quoi.
Oh, mais là, c'est même pas ça. C'est le genre, par exemple, je vais te donner un exemple.
Alors,
je vais te donner un exemple tout bête. Ils ont ajouté GTA V il y a pas longtemps sur le Game Pass.
Oh, c'est un petit jeu, ça.
Disons que quelqu'un qui va jouer, d'après les statistiques, hein, quelqu'un qui va jouer à GTA V sur le Game Pass, il va avoir des motivations supplémentaires pour acheter GTA V. Parce que peut-être en prévision de sa suppression du Game Pass.
En prévision de la fin du monde.
Non, mais je confirme, un jeu des maths qui me plaît et qui sort en physique ou qui est sorti en physique.
Ah, mais c'est pas forcément des ventes physiques après.
Oui, mais je pourrais faire partie de ces gens-là où on dit tiens, essaye.
Pour pouvoir le garder.
C'est super chouette et effectivement, tu te dis un jour, ils vont le virer du service.
Mais non,
seulement
si ça explose.
Et ça me peinerait beaucoup de ne plus pouvoir y jouer. Donc hop, je dépense un peu de thunes pour le racheter.
Et donc, outre le Game Pass, il y a aussi le Xbox Live Gold.
Exactement.
Ça, on sait que c'est une source de revenus massive pour Microsoft depuis des années, et là même si les ventes de consoles baissent etc., il y a encore beaucoup d'utilisateurs du Xbox Live Gold. D'ailleurs, ils ont battu leur record d'utilisateurs mensuels actifs au cours du dernier trimestre. Donc, alors qu'on sait que la Xbox One, bah, c'est pas forcément la console la plus vendue de cette génération, mais le Xbox Live Gold continue de très bien se porter.
Aux États-Unis, elle se défend bien par rapport à la PS4. Ailleurs, c'est plus compliqué.
Mais... Ah, bah, c'est. Enfin, le marché essentiel de la Xbox One, il est aux États-Unis.
Le Mexique.
Et un peu en Angleterre, mais même en Angleterre, c'est bien tombé par rapport à la génération précédente. Mais en tout cas, oui. Et Microsoft, évidemment, a aussi annoncé dans la foulée qu'il fallait s'attendre à une autre diminution des résultats sur le prochain trimestre. Bah, pareil, hein, diminution des ventes, etc. Et surtout. Préparation de l'arrivée de la Xbox Series X.
Et si, la sortait bien avant la PS5. T'imagines?
Genre demain?
Non, genre cet été.
Ouais, mais tu veux la sortir avant, ok.
Histoire 2.
Tu veux la sortir avant, ok, mais il faut que t'aies tes jeux
prêts.
Il faut que t'aies des jeux prêts. Et les éditeurs
tiers.
Il y
aura 4 ou 5.
Et les éditeurs tiers qui ont leur plan qui est bien établi, ils vont pas s'amuser. Parce que beaucoup de jeux, faut pas se leurrer, hein, beaucoup de jeux de la fin de cette année, ça va être du cross-gen. Ça va sortir sur PS4, Xbox One, Xbox Series X et PS5. Et les mecs vont pas se dire ah oui d'accord, bah on sort cet été nos jeux sur Xbox Series X et à la fin de l'année on les sort ailleurs. Je pense que si tout le monde sort à la fin de l'année, c'est pas pour rien. Voilà.
Et ben nous verrons.
Ouais, bon, en tout cas c'est vrai, comme on disait au début, pour Sony, les jeux et les consoles, c'est hyper important parce que c'est un peu le fer de lance de la marque. Mais pour Microsoft, c'est vrai que c'est un peu ces entreprises comme Apple qui gagnent tellement d'argent qu'elles ont besoin de trouver des choses à financer. Et du coup, en fait, même le fait que les ventes soient moins bonnes de consoles, en fait, c'est pas un problème pour Microsoft en soi, quoi, parce qu'ils ont besoin de toute façon de dépenser de l'argent pour être rentable. Donc c'est contrairement à Sony, c'est moins un problème, quoi.
Ouais, et des baisses de ventes comme ça. Une boîte comme Microsoft peut les encaisser. Tu vois, par exemple, un Sony qui voit ses ventes de la branche PlayStation diminuer de 21%, ça serait plus problématique.
Ça va faire la gueule, ouais.
Donc voilà pour les chiffres.
Bah voilà, donc beaucoup de chiffres sur les trois constructeurs principaux. On parlera de Stadia quand on aura des chiffres, parce que pour l'instant on n'a rien. Non, mais c'est vrai, ils communiquent pas du tout. Donc
Non, ils annoncent pas de jeu.
C'est surtout ça.
Ça serait bien qu'ils nous en parlent un peu.
Pendant ce temps-là, chez Stadia, et tu vois la petite boule de paille qui passe entre deux bureaux. Là.
C'est exact.
Ah bah, Phil Harrison, hein, c'est un peu le Attila du gaming, hein, là où il passe.
Le jeu très passe. Et bien voilà, sur ces entrefaits, trucs mûches et machin chose.
Ces entrechats.
Exactement, on va passer au thème number 2. Et avec toi, Thomas, puisque tu vas nous parler d'un jeu désastreux.
Ouais.
T'attendais pas à ça.
Effectivement.
En fait. Merci Thomas. Hein.
Non, mais un jeu qu'on attendait vraiment de longue date, parce qu'on va resituer un tout petit peu celui qui s'appelle Disaster Report 4
un moment,
Plus 2. Summer Memories en Occident.
Tu parles de Summer Memories.
Bah oui. Souviens-toi.
L'été dernier.
Non, c'est au printemps 2011, puisque en fait c'est à cette époque-là que le jeu devait sortir au départ. On est sur PS3. Le jeu doit sortir le 10 mars 2011. Et
le 15 mars, il y a Fukushima, je crois.
Voilà, c'est ça. Manque de bol, il se passe un événement assez tragique dont on se souvient évidemment, qui est le tsunami suivi d'un tremblement de terre dans la région du Tōhō, qui conduit...
Je t'interromps deux secondes, t'as dit quoi comme date?
10 mars.
Il devait sortir le tsunami, mars. C'est le 10 mars.
Alors, il devait sortir le 11 dans ce cas-là.
Il devait sortir le 11 et le tsunami, c'était le 10, c'est ça?
Je sais pas, moi j'ai dit 15 au hasard, mais je me souviens.
Il y a forcément eu des versions boîte de produites.
Ah non, il n'est pas sorti, ils ont préféré reporter.
Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, quand par exemple, oui, quand il y avait eu un NBA Live complètement désastreux, dont tout le monde s'était foutu, il y avait des versions boîte qui avaient circulé.
On est au Japon, là. Les gens sont respectueux des consignes.
Ils ont tout supprimé.
Si on dit qu'on sort pas, on sort pas.
Non, mais c'est même pas au sens le sortir. C'est
de la préparation, c'est tout.
Quelqu'un qui bosse dessus a peut-être déjà une boîte chez lui ou des trucs comme ça. Regarde par exemple la Yakuza Collection, elle sort le 11, on l'a déjà ici, tu vois. Et s'il se passait un truc de ouf qui faisait qu'ils annulaient la sortie du jeu, et ben moi la boîte je l'ai déjà.
Là en tout cas, de ce que j'ai vu, il n'y a jamais de boîte de cette version qui a popé sur le net, parce que le jeu est jamais sorti dans cette version là, en fait.
C'est Grand Zella, t'as vu?
Grand Zella effectivement qui va intervenir derrière. Donc effectivement le jeu ne sort pas le 14 mars, il est annulé. par, par l'éditeur, purement et simplement. Granzella, justement, rachète les droits en décembre 2014, annonce la sortie pour la fin 2015, avec un développement qui redémarre quasiment à zéro sur PlayStation 4 cette fois-ci, et qui va un petit peu changer son fusil d'épaule, puisque la série des Disasters, c'est deuxième ou troisième degré sur les thématiques catastrophiques, etc. On est quand même là pour rigoler, déconner un petit peu. Sauf que bon, bah, il s'est passé ce qui s'est passé.
C'est difficile de rigoler là-dessus à ce moment-là.
À Fukushima, c'est encore un peu frais dans les têtes. Et du coup, ils vont s'adjoindre les services des pompiers de Kobe, qui en connaissent un rayon en matière de tremblement de terre et de situation post-catastrophique, pour que ça devienne un petit peu plus sérieux. Et du coup, voici le résultat devant vos yeux ébahis grâce à Maître Poufy. Celui qui s'appelle au Japon Zettai Zetsumei Toshi Yon, c'est donc son nom original, qui va bientôt sortir chez nous pour de vrai, donc
pour de vrai.
Quelques 9 ans après sa quasi-sortie initiale au Japon. Ça reste évidemment un jeu de catastrophe, sauf que on n'est plus là pour rigoler, c'est quand même vachement plus sérieux. J'ai pu essayer la toute première heure du jeu, puisque c'était une version finale, c'était la version 1.0 du jeu qui était présentée chez Core Media la semaine dernière, et pour le coup, on sent que ça n'est plus la même soupe, même si on sent quand même que le développement a débuté sur la génération précédente.
On le voit un peu
on
aussi.
On le voit dès le début, puisque d'abord créer un avatar, donc homme ou femme, avec quelques petites options de customisation en termes de coupe, de cheveux, de couleur... Et de costumes aussi, puisque même si on commence en tailleur, enfin moi j'ai commencé en tailleur, on peut très rapidement se vêtir de trucs complètement craqués, complètement cheatés, très japonais. Et du coup l'histoire commence, et ce qui est intéressant dans le côté vachement plus sérieux qui habille cette fois l'aventure, c'est qu'on va te poser des questions sur « et toi, tu ferais quoi dans une telle situation ?» tu vois.
Attends, mais j'ai vu dans le logo, là, Peggy, il parlait de sexual content, comment tu peux mettre du contenu sexuel dans un truc sur les catastrophes? J'ai du mal à cerner le...
Tu penses que tu vas mourir,
tout va bien se passer,
il te reste plus que 15 minutes à vivre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire?
Ça me paraît tellement chelou.
Donc, mais non, sachez-le, les tremblements de terre n'excitent pas Camille. Voilà, maintenant c'est une certitude.
Non, mais tu sais très bien que dès qu'il y a une catastrophe, il y a des pillages, des machins, des bidules, des exactions.
Et de la copulation. Normal.
Oui, bah, il peut y avoir des viols, des machins, des bidules.
Ah, moi, j'ai rien vu de très sexuel. Hein, pour le coup, sur la première heure de jeu, c'est presque dommage d'ailleurs. Au début, voilà, on vous promet des choix avec un impact. Et Maître Poufy vous montre justement un des moments où il faut.
C'est dangereux ici.
Faire justement un choix, et dès le début. Comme je te le disais, Romain, on te pose la question de qu'est-ce que tu vas faire. Et très souvent, en fait, le jeu va te proposer des choix et va te permettre de gagner ou de perdre des points de morale. Dès le début, puisque notre héroïne est dans un bus, vous choisissez pourquoi vous êtes dans ce bus. Est-ce qu'on va se rendre à une interview pour un boulot? Est-ce qu'on va déambuler, faire du shopping, claquer son fric, etc. Tout le monde reçoit un message. Et là, juste avant ça, vous avez le choix de laisser votre place à une petite vieille qui monte dans le bus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux lui laisser ta place, mais tu peux justifier ça en disant « t'es respectueux des vieux et spontanément tu te lèves » ou « tu te lèves parce qu'il y a beaucoup de monde et que les gens te regardent ». Et donc t'as le côté pression sociale et tu vas gagner plus ou moins de points de morale en fonction.
Pression sociale que les Japonais ne connaissent pas du tout.
Du tout, voilà, c'est complètement invisible.
C'est pas du tout le genre de
la
maison.
Bref, le tremblement de terre finit par arriver et donc on se retrouve dans une petite zone vraiment sans dessus-dessous. Et c'est là qu'on se rend compte effectivement que le moteur a pris un petit coup dans les dents, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne vont pas sur le plan purement visuel et graphique. Il y a de l'aliasing, il y a des choses un petit peu bizarres. Là, comme vous l'avez vu, et comme vous le voyez actuellement, des visages quand même un petit peu rudimentaires.
Oui, c'est
des problèmes de collision, c'est très rigolo. Je vous invite à essayer de marcher sur un trottoir un peu surélevé et de garder l'autre jambe sur, sur la voie publique. C'est assez drôle, c'est une démarche complètement pétée. Enfin bref.
Voilà. Pourtant, ce genre de problème a été résolu il y a au moins 10 ou 15 ans.
Mais le jeu, quand même, accuse un vrai coup de vieux.
Ah ouais.
Mais à côté de ça, il va avoir une espèce de dimension un petit peu pédagogique, puisqu'en fait, rapidement, on te dit bon, voilà, maintenant. La ville est en ruine, c'est la merde.
C'est acté.
Ce qu'on vous conseille, c'est de trouver un parc. Et donc, tu vas fouiller les environs, trouver le parc en question, et là, on t'explique que dans un cas comme ça, ce qu'il y a de mieux à faire, justement, c'est de trouver un endroit dégagé. Pour éviter de te prendre des débris sur la tête, il y a une petite dimension pédagogique comme ça de quels sont les bons réflexes à adopter quand on vit un tremblement de terre, ce qui est assez monnaie courante, on va dire, au Japon. Donc il y a un truc un petit peu intéressant. Et derrière, bon, on va t'inviter à faire preuve de non pas de mansuétude, mais d'aller aider un petit peu les gens, parce que tout le monde est un peu pris de court et tout le monde a besoin d'aide. Et donc Disaster Report 4, c'est un jeu dans lequel tu vas aider ton prochain. Pensez d'abord à ta propre survie, puisqu'il va falloir trouver de l'eau, s'équiper d'un nouveau sac à dos par exemple, se changer si les circonstances l'exigent, mais surtout aller à la rencontre des habitants du quartier. Et c'est là que je l'ai trouvé super comique, mais alors contrairement aux anciens épisodes où là c'était volontairement un petit peu loufoque, là il est comique parce qu'il est extrêmement japonais, c'est-à-dire que tu te balades, tu prends, c'était la première rue à droite, un type t'arrête, cutscene, alors chargement tous les 2-3 pas, hein, ça c'est... Ah ouais, vraiment turbo relou, il y a des changements tout le temps alors que les zones sont microscopiques. Mais un type t'arrête, il y a un immeuble qui s'écroule devant toi, et là le mec regarde l'immeuble en disant « Oh, j'espère que les gens à l'intérieur vont bien. »
Bah oui,
bon, tu vois bien que non.
Tu te rappelles du 11 septembre ?
Il vient de s'écrouler devant tes yeux, et il y a plein de trucs comme ça. Il y a toute une partie de la foule qui est super vénère parce que c'était le jour où les étudiants passent des entretiens d'embauche dans les grandes entreprises japonaises. Tous les étudiants sont scandalisés que les entretiens n'aient pas lieu. Donc il y a une espèce de horde en colère qui gueule aux portes de l'entreprise avec les vitres pétées, le tourniquet qui ne fonctionne plus, en disant « Ah, on veut notre interview pour décrocher un emploi. »
Non, mais c'est pas réaliste, hein.
Non, mais voilà. Mais en fait, moi, c'est ce que j'ai adoré, c'est qu'il est super drôle.
Mais
parce
il est millième degré, là.
Il
parce
est
que...
complètement décalé. Ah ouais. Il est vraiment complètement à l'ouest par mais rapport à la thématique.
Ils essaient de mettre un peu d'humour par rapport à un truc plus grave, ou c'est vraiment
c'est
de l'humour japonais.
Alors je me pose la question, est-ce que c'est involontaire, est-ce que c'est une critique sous-jacente de l'attitude égoïste que peuvent avoir les gens dans une situation de détresse. En tout cas, moi ça m'a fait marrer, et je pense que si, comme Johnny One, parce que Johnny One est vachement intéressé par le jeu, vous aimez les trucs hyper japonais, un peu pété, un peu bizarre, il y a un vrai potentiel what the fuck, un peu à la Deadly Premonition. Tu sais, il est moche, ouais, il est pas fini, mais il y a un truc derrière quand même qui
fait que
il m'intéresse vachement. En plus,
oui,
il est jouable en VR.
Il est intriguant depuis
aller dans le truc au PlayStation VR, ça peut être cool. Et l'objectif, c'est quoi? Au juste, c'est de t'enfuir,
c'est de survivre.
Alors au départ, ton objectif en fait c'était de te rendre là où t'es censé aller, mais tout ça va changer en fait, puisque l'objectif en tout cas de la première heure, c'est trouver des gens qui ont besoin de toi. Tu vas être content parce qu'on croise un type, on te le présente pas comme ça, mais il a tout du yakuza de base, les poils, la barbe, le costume rayé.
Je crois qu'on l'a vu.
On l'a vu tout à l'heure, le col pelle à tarte, etc. Et ça c'est pareil, il va
c'est lui là, celui qui est en haut à gauche.
C'est celui qui est en haut à gauche, ouais. Et il va te demander si t'as vu quelqu'un qui portait un t-shirt noir, et tu vas pouvoir éventuellement te rappeler si tu l'as croisé, lui indiquer la bonne direction, lui indiquer la mauvaise direction pour essayer de sauver la personne, sachant que tu ne sais pas qui est coupable entre les deux. Bref, ce genre de truc. Et voilà, tu vas vraiment te porter au secours des habitants du coin, et puis au fur et à mesure tu vas pouvoir débloquer des nouvelles zones, avancer, parce qu'au début t'es vraiment coincé dans une toute petite zone de jeu, mais ça va t'obliger à aller à la rencontre de ton prochain. Et vraiment, pour ces situations mais complètement décalées, je l'ai trouvé vraiment super drôle, et je pense que ça va parler à une partie du public qui aime les jeux typiquement japonais, qui aime aussi entrevoir les méandres de ce qu'a pu être le développement. Il a un petit côté FF15, tu vois, où t'as tellement de trucs un peu pétés que tu vois ce qui s'est passé derrière. Et alors par contre, une petite précision pour le mode VR, parce qu'effectivement il sera dans la version occidentale, mais c'est quelques petites expériences, c'est-à-dire que l'intégralité du jeu n'est pas jouable avec le PSVR. Ça sera seulement quelques parties qui ont été pensées dédiées pour, mais
des passages, etc.
Voilà.
Particulier.
Comme on le voit dans la vidéo, c'est vraiment délimité, mais
dans
on pourra.
Métro,
Là, tu vois, par exemple, voilà, t'as un immeuble qui s'écroule et le type va te dire j'espère que les gens vont bien. Tu vois bien que le truc s'est cassé la gueule,
chance.
Que s'il y a des gens à l'intérieur, ils sont blessés ou morts, mais bon, voilà. C'est très japonais, son côté premier degré, plus ou moins assumé, le rend extrêmement attachant. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne, malgré tous ses défauts sur le plan technique.
Ah, moi, j'ai super envie d'y jouer aussi maintenant, c'est sûr. Ça me fait penser, je sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans au TGS, Bandai Namco avait annoncé un peu un jeu équivalent à ça, sauf que ça te mettait du point de vue d'un humain lambda au cours de catastrophes, mais de catastrophes provoquées par des trucs très mythologiques japonais, tu vois. Genre, qu'est-ce qui se passe si t'es un humain au moment où Godzilla attaque la ville?
D'accord.
Ou alors, qu'est-ce qui se passe si t'es un humain Alors qu'il y a Ultraman qui est en train de se battre contre un ennemi géant. Alors tu vois, les immeubles s'effondrent, etc. Et c'était un peu le même délire où tu devais t'enfuir et t'avais des choix à faire, etc. Tu pouvais customiser ton personnage. Niveau de réalisation, ça avait l'air d'être digne de ça. Mais le concept avait l'air d'être tellement idiot, mais idiot dans le bon sens,
oui,
du terme, tu vois,
ça.
Idiot japonais. Et ça, ce jeu-là m'avait fait super envie, mais Bandai Namco l'a jamais localisé, malheureusement. Et donc là, celui-là qui a l'air un peu dans le... dans le même délire avec le côté SF en moins, ça me branche bien. 7 avril en plus, c'est dans pas longtemps. Et en plus, l'autre intérêt pour des gens comme toi et moi, c'est que t'as le petit côté historique aussi du produit,
oui, de ce qui s'est passé derrière,
qui aurait dû sortir il y a longtemps. Et
en plus, là on le voit pas à l'écran, mais effectivement le jeu va sortir sur PS4 et sur Switch. Alors bien évidemment sans le mode VR, mais il sortira le 7 avril 2020 sur Switch également.
Ils auraient pu le rendre compatible avec les lunettes Nintendo Labo, parce que bon, au point où on en est.
Et bah, seul bémol, pour le coup, le jeu ne sera proposé qu'en anglais, il n'y aura pas de version française. Mais très franchement,
si
vous êtes du genre otak, très intéressé par les jeux de niche japonais, je pense que ça ne sera pas un problème pour vous.
Et là, techniquement, ouais, sur Switch, ça sera pas, il n'y aura pas de grosse perdition.
Je pense qu'il n'y aura pas de problème, on n'entendra pas la Switch décoller comme le PC de Poufy quand il joue à ses jeux indés le midi.
Une autre petite question, pour le déroulement des parties, genre par exemple vis-à-vis des sauvegardes, etc. Parce que quand tu dis Switch, moi je pense tout de suite forcément à des sessions de jeu qui sont pas forcément très longues. Ça se passe comment? Tu sauvegardes à la fin d'un chapitre ou tu peux sauvegarder n'importe quand?
Je crois que tu peux sauvegarder
branchement, non?
Tu peux sauvegarder n'importe quand. En fait, t'as un menu avec une sauvegarde à l'ancienne. Il est très japonais sur ce plan-là aussi. T'as une interface qui, je crois, te permet de sauvegarder un petit peu comme tu veux, sachant que il y a des moments avec des cutscenes et des transitions où évidemment tu peux pas sauvegarder. Mais non, ça se prête à de courtes sessions. En tout cas, voilà, j'ai joué que la première heure, mais tu pouvais globalement t'arrêter n'importe quand, c'était pas un souci.
Et pour le coup, avec tous les embranchements, alors si ce sont de vrais embranchements, il peut y avoir une rejouabilité.
J'ai parlé au producteur de Nice America, Alan Costa, qui était là pour présenter le jeu justement, et il m'a assuré qu'il y avait au moins 3 fins différentes en fonction justement de tes points de morale et qu'elle est décidée de ce qu'elle est à devenir.
Ah oui, c'est pas chaque choix mène pas forcément un truc différent, c'est presque une moyenne.
C'est plus une jauge,
la moyenne,
voilà,
de ce que tu as fait.
Un peu à la Catherine, quelque part.
C'est peut-être juste sur la fin où tu peux changer un peu le truc.
Je pense que ça risque d'être une moyenne qui va trancher dans une catégorie.
D'accord.
Voilà. Et du coup, comme j'ai parlé d'Alan Costa, je vous invite aussi à aller lire l'interview qu'on a faite de lui. Si vous
Exactement.
Avez les jeux japonais, les jeux physiques, les trucs un peu bizarroïdes.
La localisation.
C'est toujours très intéressant de discuter avec le producteur de Nice America. Voilà, mon cher Traz.
Merci Thomas pour cette première prise en main donc, de Disaster Report 4 qui sortira chez nous donc, le 7 avril 2020. C'est vrai qu'on est en 2020.
Sauf si il y a une catastrophe en Europe juste avant.
Juste avant.
Et là, on est dans la merde.
Eh ben, j'espère pas. Écoute, hein, on verra ça. C'est l'heure de notre troisième et dernier thème, n'est-ce pas, Camille? Et là,
exact.
On va parler de quoi? De Warcraft 3
Reforged.
Warcraft 3 Reforged.
Qui est le remaster, en fait, d'un jeu culte, hein, puisque Warcraft 3 est sorti donc le 3 juillet 2002, donc il y a 18
t'imagines.
Ans.
T'imagines? C'est fou, hein.
Mais ouais, ça paraît pas si vieux.
Si.
Ouais, enfin.
Si, j'étais au lycée, donc.
Oui, mais je veux dire, en tout cas, dans mon esprit, ça paraît pas si vieux.
À l'échelle de l'humanité, non, c'est sûr
c'est
que
ça.
C'est pas grand chose.
Est-ce
qu'il a été bien reforgé ou pas, alors?
Alors, c'est ce qu'on va voir. Déjà, il faut savoir que c'est vraiment un jeu culte, c'est ce qui a permis vraiment au studio Blizzard de forger toute sa réputation. Ce qui a permis aussi de donner naissance à World of Warcraft, puisque, Warcraft 3, c'est vraiment l'épisode canonique qui a permis d'étayer en fait le background, d'approfondir l'univers du jeu, etc. Et ce qui a permis donc de donner naissance à World of Warcraft et à d'autres jeux, puisque c'est aussi Warcraft 3 qui a donné naissance à League of Legends et donc au style MOBA.
C'est fou quand même.
Parce qu'à la base c'était un mode de jeu amateur qui s'est transformé petit à petit et qui est devenu League of Legends et avec le succès.
Qui est devenu un monstre.
Qui est devenu un monstre qui continue d'être joué par des millions de joueurs. Donc voilà, Warcraft 3, voilà, c'était pour remettre un peu en situation. Donc ils ont annoncé ça l'année dernière de sortir. Il y a pas mal de rumeurs sur ce jeu auparavant, d'avoir un remaster de Warcraft 3. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup attendu par les joueurs. Lors de la BlizzCon 2018, ils avaient vraiment annoncé la chose avec toutes les features qu'il devait y avoir, etc. Et il se trouve que, vous allez le voir, au final, les features, elles sont loin d'être toutes présentes. Et même, il y a eu pas mal de mensonges de la part de Blizzard.
À commencer par la date de sortie, puisque là, on voit sortie en 2019.
C'est ça. Mais d'abord, on va commencer par les bonnes choses, puisque il y a quand même des bonnes choses dans
Après,
ce jeu.
Après, ce sera les choses qui fâchent.
Exactement. Alors déjà, il y a quand même un beau un beau travail de cartes qui ont été retravaillées, puisque si vous avez souvenir dans Warcraft 3, il y avait des cartes qui étaient un peu, j'allais dire pétées, pas forcément pétées, mais vraiment des endroits qui donnaient peut-être avantage à une équipe. Parce qu'en fait, pour rappeler, le jeu a une campagne solo, mais vraiment c'est le multijoueur qui a fait exploser le jeu en termes de réputation. Et donc il y avait des coins de la carte qui étaient vraiment qui donnaient trop d'avantages à l'une ou l'autre équipe, et ça vraiment il y a des points qui ont été retravaillés. Et je pense que le fait que c'est donné le naissance au jeu MOBA, enfin au style MOBA, ça a eu aussi sa part d'influence sur le jeu. Puis après il y a eu StarCraft 2 aussi qui est sorti, donc ils ont eu aussi quand même pas mal de d'expérience après ce Warcraft 3 en termes
d'équilibre,
ouais. Exactement, en termes de jeu de stratégie. Pareil, il y a aussi des missions qui ont été retravaillées, puisqu'en fait au sein de la campagne solo on avait des quêtes à réaliser, et les quêtes elles ont disons été améliorées avec le lore du jeu. Alors, je sais que vous aimez pas ce mot de lore,
ah, le lore,
mais je sais que tu n'aimes pas ce mot mais avec le background, si tu préfères. Le background du jeu, il y a
pas
des...
un mot français.
La mythologie.
La mythologie.
Voilà. Merci, monsieur. La mythologie.
Ouais, ça n'a rien à voir. Alors, tu la fermes.
C'est pas. Non, c'est pour moi, c'est pas.
Non, mais pas. Ah bah, la mythologie d'un univers, c'est le lore. Hein. C'est la même chose.
Hein. Disons le lore. C'est pas très grave.
Pour moi, au point de vue d'historien, quand je parle de mythologie, c'est pas ça.
Dites-nous ce que vous préférez dans les commentaires.
Non, mais je sais.
Non, mais c'est bon. On va pas partir sur la définition de mythologie.
C'est qu'un mot peut avoir plusieurs sens, Camille.
Tu sais que dans la vie, il faut pas se faire chier quand même.
Donc bref.
Donc le lore.
Il y a pas mal d'éléments de background et d'easter egg qui sont arrivés par rapport à World of Warcraft, puisque évidemment la plupart des joueurs de Warcraft 3 ont joué aussi par la suite à World of Warcraft, et c'est souvent un plaisir de retrouver des personnages qu'on a découverts dans World of Warcraft et des créatures, etc., qu'on aurait pu découvrir à l'époque. Et ça c'est plutôt pas mal, ça a bien été pensé, on sent qu'ils ont vraiment c'est du fan service pur et simple, hein, mais c'est quelque chose qui fait plaisir. Il y a aussi des nouveaux choses qui sont arrivées, qui sont vraiment toutes simples, comme l'autosave. Alors c'est tout bête, hein, mais l'autosave, il n'y en avait pas dans Warcraft 3 d'origine.
Ouais.
Et là, c'est présent dans la campagne solo, et c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a quand même des endroits qui sont pas mal coriaces au sein du jeu. Il y a aussi pas mal de nouvelles maps custom qui avaient été créées à l'époque par les joueurs, qui ont été un peu appropriées par Blizzard. Alors je sais pas comment s'est déroulé les pourparlers par rapport à ça, par rapport aux créateurs d'origine, mais en tout cas ils ont incorporé plus d'une dizaine de maps qui appartenaient aux joueurs, qui avaient été créées aux joueurs dans l'éditeur de maps. Puisque...
Ouais, il suffit de faire signer un truc disant que si tu uploads une map, c'est la propriété de Blizzard,
ouais.
Et puis après
ouais,
t'es
mais
tranquille.
C'était pas si simple à l'époque, justement, parce que alors justement, j'en reparlerai dans les points négatifs, mais les clauses ont pas mal changé depuis. Puisqu'il y a un éditeur de map, comme pour le jeu d'origine, l'éditeur de map était vraiment c'est ça qui a permis de créer le jeu style MOBA finalement. Donc l'éditeur de map était très 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 utilisé, notamment pour faire des cartes. Il y avait des modes de jeu qui étaient vraiment vraiment oufissimes. Et du coup, c'est vraiment une bonne idée d'avoir incorporé ces maps custom. Alors ça, c'était pour les points positifs. Donc vous voyez, c'était assez court. Puisque
mais maintenant c'est terminé.
C'est ça. Puisque le jeu, malheureusement, alors moi, je suis vraiment le premier catastrophé par ça, puisque j'aime beaucoup l'univers Warcraft et j'ai beaucoup d'estime pour Blizzard. Il se trouve que tout un tas de features qui étaient annoncées, donc comme je le disais précédemment, à la BlizzCon 2018, ne sont tout simplement pas présentes, ou alors ont été sciemment oubliées. Je sais pas vraiment comment ça s'est passé dans leur tête. Déjà, il y avait un système de clans qui était extraordinaire dans Warcraft 3, qui permettait de lier les joueurs entre eux, puisqu'en fait, c'est pareil, hein, ce qui a permis à Warcraft 3 d'avoir ces millions de joueurs, c'est aussi parce que tu avais un système de clans qui permettait de se grouper ensemble, de former des équipes, etc. Et ce système de clans, qui marchait tellement bien, n'est plus du tout présent dans le jeu, en fait.
C'est chacun pour sa pomme, du coup ?
Non, en fait c'est plus compliqué que ça. En fait, dans le système de clan, c'est un peu comme dans les MMO, en fait, tu crées ton équipe et t'avais un tag en fait devant ton prénom. Alors c'est tout con, hein, mais ça permettait d'avoir une sorte d'affiliation avec les joueurs et d'avoir d'être réunis de manière
te sentir faire partie d'un tout,
voilà, faire une équipe, etc.
T'avais une mission qui te dépasse,
ouais, vraiment un côté équipe qui était super sympa. Pareil, il n'y a plus de tournois. Avant il y avait des tournois, pareil, dans Warcraft 3, ça s'est totalement été zappé du jeu. Et ça, c'est vraiment pour les problèmes qui ont été sciemment donc oubliés. Alors sciemment, on sait pas trop, puisqu'en fait ils ont fait une annonce là il y a aujourd'hui ou avant-hier d'excuses en fait publiques, de dire alors désolé si si notre jeu n'a pas plu aux fans, etc., ou même aux autres. Il se trouve que le système de clan et le système de tournoi n'étant pas beaucoup joué à l'époque, nous avons préféré ne pas l'incorporer dans le jeu. Mmh. Alors des excuses qui ont plus ou moins convaincu les joueurs, puisque quand on se rend compte à l'époque, quand on joue au multijoueur,
tout le monde
y jouait au système de clan. Enfin, je veux dire, tout le monde avait un clan. En fait, c'était ça faisait partie du ça faisait quand tu joues en multijoueur, t'avais forcément un clan. Enfin, ça faisait partie du truc.
Et pourquoi ils l'ont pas mis alors du coup ? Parce qu'ils ont eu la flemme de.
Bah, on sait pas. Ils l'ont pas précisé. Alors, les rumeurs disent que le temps de développement. Enfin, ce qu'on comprend dans le message final qu'ils ont présenté, c'est que le temps de développement n'a pas forcément été nécessaire pour finir le jeu comme ils l'auraient espéré. Mmh. Mais en tout cas, il y a quand même des choses pour un studio de l'envergure de Blizzard, éditeur studio, des choses qui sont assez honteuses, notamment au niveau des graphismes, puisque bon, l'un des avantages d'un remaster, c'est d'avoir notamment de pouvoir ancrer un jeu ancien dans une certaine modernité. Mmh. Et il se trouve que si le jeu est certes plus beau à certains égards, notamment au niveau des animations qui sont quand même beaucoup plus réussies, etc., le jeu fait vraiment peine à voir à certains moments, notamment que c'est quand même bourré de bugs, à tel point qu'il y a certains endroits de la map où il y a des carrés, tu sais, qui aident à créer les... Pas les skins, mais les modèles qui permettent de créer les modèles. Donc en fait, t'as des endroits sans aucune skin, t'as des carrés avec des ronds à l'intérieur, en fait, qui permettent tout simplement aux développeurs de s'y retrouver en fait dans le développement du jeu, qui sont encore présents. En fait, ils ont oublié des endroits entiers de map. Donc t'as des endroits où t'as pas d'armes, par exemple, t'as juste un espèce de pylône vert avec des points noirs dessus, pour t'expliquer que bah, c'était là qu'il fallait mettre un arbre.
Quoi, avec un post-it, voilà, disant merci de skinner ce polygone.
C'est exactement ça.
Moi, je te trouve un peu dur. Hein. Blizzard, c'est un petit studio, indépendant qui démarre. Là, ils ont fait un portage comme ça, enfin une remasterisation pour faire plaisir aux fans, c'est avec leurs petits moyens.
Et on n'est pas content. Personne n'est content.
Vous n'êtes jamais content, les joueurs PC, votre problème.
Regarde, il y a ce que je vois à l'écran, là, c'est parfait pour toi. Il y a un dragon, il y a des chevaliers, il y a des trolls, il y a des orques, des armures et tout, c'est parfait pour toi. Pourquoi tu te plains ?
Il y a pas de dragon dans Warcraft.
C'était pas un truc, c'était pas un dragon, machin.
Tu mens.
L'autre problème, c'est qu'il y a pas mal de crash. Donc ça, c'est impardonnable pour un jeu qui sort en 2020, d'avoir des crash qui empêchent de jouer. C'est quand même assez catastrophique. Et surtout encore, ça serait un petit studio indépendant, on pourrait à la limite pardonner les trucs et dire bon, on va leur laisser quelques mois pour résoudre le problème avec le patch. Mais quand tu t'appelles Blizzard, tu peux pas te permettre de sortir un jeu avec des crash, surtout quand tu connais l'aura de la licence Warcraft.
Surtout quand le jeu a près de 20 ans.
C'est ça. Le jeu, c'est pas comme s'ils le connaissaient pas, quoi.
Oui, en plus, c'est pas un Warcraft 4, c'est vraiment un remaster, quoi. T'as aussi des choses qui ont disparu, qui étaient présentes, qui étaient simples à faire. Alors le mode local, je l'ai précisé dedans, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de gens qui jouent en local qu'auparavant, mais ça aurait... Enfin, c'est pas forcément un truc.
Oui, c'est toujours une option supplémentaire qui est sympa à laisser, quoi.
Voilà, qui aurait pu être sympathique.
Ils sont peut-être dit, ça sert à rien de faire ça. Plus personne joue en local. Donc,
oui, alors ça, à la limite, pourquoi pas, en tout cas.
1% des gens.
Ouais. L'éditeur de cartes qui est maintenant soumis à des clauses assez abusives en termes en gros.
De faisabilité, c'est ça.
Alors, certes, c'est le moteur du jeu qui appartient à Blizzard, etc. Mais en fait, tout ton travail, en fait, appartient à Blizzard.
Tu vois, c'est pas con, les mecs.
Voilà.
Ouais, mais ça, c'est peut-être pour t'éviter de faire n'importe quoi aussi.
Ouais, mais du coup.
Lancé sur le net, comme ça.
En partant sur ça, il y aurait jamais une MOBA. Le MOBA n'aurait pas existé, puisque ça aurait été finalement. Le mec qui a créé LOL ne serait pas connu, etc. Donc c'est quand même assez. Voilà, on sent qu'il y a une politique qui a changé derrière qui est pas super sympathique. Il y a beaucoup de crash aussi dans le matchmaking. Alors ça, c'est un peu problématique parce que quand tu cherches des joueurs pour jouer en multi et que d'un coup tu tapes un crash. Alors pas un crash du jeu dans le sens où tu vas retourner au bureau ou quoi que ce soit, mais crash vraiment du matchmaking, c'est-à-dire ton chargement va s'arrêter, tu vas retourner au menu. Donc c'est un peu chiant. Il y a plus de raccourcis clavier possible puisque comme je l'ai dit, ça donnait naissance au genre MOBA et déjà à l'époque t'avais des raccourcis clavier que tu te faisais pour en fait des templates
gagner en efficacité, déclencher des scripts
et ça c'est plus possible, ou en tout cas ça l'est possible beaucoup moins, c'est à dire qu'il y a beaucoup moins de possibilités. Pareil, c'est quelque chose qui est assez honteux pour un jeu de cette qualité, en tout cas à la base. Pareil, le système de statistiques que les joueurs joueurs et des friands de regarder leurs statistiques, bah, comme beaucoup de jeux multijoueurs finalement. Maintenant, c'est à la mode. Hein, c'est, ça paraît évident quand on parle de statistiques, puisque donc, que ce soit les jeux consoles ou PC, sur les FPS, les TPS, etc., t'aimes bien savoir. Enfin, les gens sont curieux de savoir leurs propres stats et aussi bah, les
le
stats
sport,
de leurs potes.
Le sport en général, t'as envie de savoir où t'as merdé.
Exactement. Et bah là, il y a plus de système de statistiques. Ça a totalement été zappé donc de ce remaster. Le pathfinding. Alors, le pathfinding, c'est le chemin qu'empruntent les unités. Qui est très important dans les jeux de stratégie et même dans d'autres, mais finalement même dans un FPS ou un TPS, hein, l'IA elle emprunte elle utilise le pathfinding pour trouver son chemin.
Et pas bloqué dans un mur ou je sais pas.
Exactement. Et ça, ils avaient annoncé que c'était un des gros changements lors de la BlizzCon 2018 et 2019. Vous inquiétez pas, le pathfinding va être super bien par rapport à l'époque, ça va être le jour et la nuit. Et en fait, il se trouve que le truc est aussi pété qu'à l'époque, voire pire à certains égards, tu vois. Donc.
Il a été développé en combien de temps ?
En deux jours,
bah visiblement deux ans vu que ça a été annoncé, peut-être même plus puisque ça a été annoncé.
Il a été reporté. Du coup.
Ça a été officiellement annoncé lors de la BlizzCon 2018. Mm. Donc déjà tu peux estimer qu'il y a deux ans de développement.
Avant l'annonce.
Ouais, avant. Et on est persuadé que c'était développé avant parce qu'il y avait déjà des rumeurs, de grosses rumeurs sur ce remaster au moins un an ou deux ans avant. Donc on peut au moins tabler sur trois ans de développement, c'est sûr et certain. Quoi.
Voilà, ils ont pas eu beaucoup de temps en plus. Fin...
C'est ça pour un remaster en plus, ouais.
Tu leur pardonnes rien, Camille, vraiment.
Attends, ça se trouve, il y avait trois personnes dessus, c'est tout. Hein,
et enfin, pour arranger le tableau, l'obligation pour les titulaires de l'ancienne version du jeu de migrer vers la nouvelle pour continuer à jouer en ligne. Donc en fait, si tu veux continuer à jouer en ligne, il faut soit acheter, enfin tu vois, il faut se posséder la version Reforged.
Donc moi, tu peux plus jouer au
jeu d'original sauf si tu possèdes la version Reforged, voilà. en multi uniquement.
T'imagines ça, t'as acheté ton jeu il y a des je sais pas combien d'années, tu continues d'y jouer, d'un seul coup on dit ah non,
remaster mec.
Et ouais, si et tu ouais. veux continuer à jouer, il faut acheter le nouveau.
Donc, en l'état, j'appellerais ça un remaster de sagouin. Je dirais même un jeu de sagouin, en fait,
de salon.
C'est un peu vraiment le rendu qu'on a actuellement. Hein. D'ailleurs, on l'a publié la nuit sur Gameblog cette semaine. Les joueurs ont puni ça via Metacritic en mettant des notes. Alors, j'aurais pas mis évidemment des notes.
Je crois qu'il y a eu 0,5.
Voilà, c'était vraiment des notes punitives. Hein. Mmh. Ça reflète pas non plus la qualité du jeu. Mais
ça montre leur protestation.
Une protestation qui est qui a lieu d'être, contrairement à certains défauts. Ouais. Il y a des protestations, tu te dis bon ok les joueurs abusent, mais là vraiment c'est assez scandaleux. Il y a des petites choses aussi qui ont changé, enfin moi pour moi c'est important, mais t'as les doublages notamment français qui ont permis notamment au jeu d'être connu, enfin c'est ce qui a permis au jeu de s'épanouir à l'époque, puisque dans les cours de récré les gens, enfin c'était vraiment c'est devenu des mèmes, enfin c'est des mèmes avant l'heure des mèmes quoi. Mmh. Où t'avais tous les dialogues des personnages et tout, quand tu cliquais sur les unités c'était vraiment culte, à tel point que dans World of Warcraft ils ont repris certaines lignes de dialogue pour les incorporer à des PNJ, etc. Et ça, ils ont changé ça. Ils ont dit, on va en faire table rase tous les super doublages d'époque et on va vous refaire un doublage français.
Tout pourri.
Pas pourri, mais qui est vraiment.
Qui gâche un peu
qui est assez médiocre par rapport à ce qu'on s'imaginait.
Ah, qui est pas celui de ta jeunesse, quoi.
C'est ça, et surtout qu'en plus, quand tu joues à Reforged.
Qui était culte à l'époque, quoi.
Qui était culte à l'époque, mais surtout, c'est à double tranchant pour eux, puisqu'ils ont annoncé, quand ils ont annoncé le jeu, ils ont dit on s'adresse avant tout aux fans, on veut vous faire plaisir, on veut que vous retrouviez.
Et pour la peine, on change tout.
Voilà, on veut que vous retrouviez.
Ils sont très bien pris.
Mais c'est ça, on veut que vous retrouviez une certaine nostalgie, et en fait, ta nostalgie, elle est sapée, parce qu'en fait, ils te changent tous les éléments qui faisaient plaisir à découvrir à l'époque, quoi. Mm. Comme je disais à Thomas ce midi, en fait, quand tu cliquais sur les unités, tu sais, pour leur donner des ordres, une ligne d'ordre, elle te disait d'avoir des phrases basiques au début, et qu'en fait, quand tu cliquais une dizaine de fois sur la même unité, ça te crée une ligne de dialogue et ça te crée des easter eggs par rapport au cinéma, etc., à la pop culture. Donc, tu avais, je sais pas, des références à Star Wars, au Seigneur des Anneaux, enfin, à plein de trucs, même à Dragon Ball, il y avait aussi une référence à Dragon Ball. Enfin, tu avais plein de trucs comme ça qui étaient hyper intéressants et que tu découvrais en cliquant sur l'unité plusieurs fois, et même ça j'ai l'impression que ça a disparu. Il y a vraiment un truc qu'ils ont zappé, c'est incompréhensible de leur
part. Ils y ont tout pris.
En fait, ils ont créé un système pour que tu aies de la nostalgie pour le jeu original, en fait.
Ouais, c'est ça.
Parce que c'est le
auquel tu ne peux plus jouer.
Voilà, c'est pour t'inciter à aller sur le jeu original et qu'ensuite tu sois obligé de payer le nouveau. Ouais. C'est un cercle vicieux.
C'est un peu ça. Et du coup, ils ont quand même, ils se sont rendus compte du flop que ça a fait, et ils ont proposé aux joueurs de rembourser, sans avoir à vous expliquer. En fait, vous pouvez faire une demande de remboursement sur Battle.net, et vous êtes tout de suite refoundé de votre.
Quel que soit ton temps de jeu, pardon.
Ils ont dû avoir tellement de plaintes.
Quel que soit ton temps de jeu,
ils se sont dit on n'a pas le choix, quoi.
Sans contrepartie ni quoi que ce soit, t'es remboursé.
Sans contrefaçon.
t'es remboursé. Et ça, bah, heureusement, c'est plutôt pas mal. Et donc, du coup, dans le fameux message qu'ils ont publié, ils ont annoncé. De quoi ?
La fin du monde.
Nous savons que. Alors, ils ont fait tout un laus, comme je disais.
Nous savons que le coronavirus va nous emporter tous, mais.
ils expliquaient que, voilà, il y avait des crashs qui allaient être résolus par rapport à un patch qui allait sortir là, au milieu du mois de février.
À la fin d'année.
Enfin, dans une dizaine de jours, ils ont annoncé qu'ils allaient améliorer les patchs.
Long discours,
exactement,
leur long truc, là.
Et ils ont fait une conclusion de ça avec « Nous savons que ce message ne répond pas à toutes les questions, mais nous sommes engagés au développement et au soutien de ce jeu. » Parce qu'en fait, ils comptent évidemment soutenir le jeu assez longtemps, comme ils le font en général pour tous leurs jeux, que ce soit Overwatch ou Diablo. Ma foi, le mal est fait, puisque dans l'esprit des joueurs...
La communauté est un peu rebellée, quoi.
C'est même plus que scinder la communauté. C'est vraiment, même les fans ultra de Blizzard, ils se sont dit « C'est pas possible, en l'état, quoi. »
Mais je me suis dit, je me demande comment ils ont pu penser que ça allait passer sans problème.
C'est guerre.
Ouais.
Parce qu'en plus, Blizzard, c'est une boîte qui a la BlizzCon, qui a quand même plein d'événements avec les fans. Il y a pas mal de.
Ouais, mais le Blizzard de 2020 est peut-être pas le Blizzard de 2002.
Ouais,
tu vois.
Et puis, exactement. Et c'est ce que j'allais dire. Ça se trouve, c'est juste des jeunes qui viennent d'arriver sur le marché chez eux, enfin sur le marché de leur entreprise, qui n'ont pas du tout connu le Blizzard de l'époque et ils savent pas du tout comment
Ils sont pas décisionnaires là-dessus.
Oui, mais les décisionnaires, ils connaissent peut-être que dalle.
Bah ouais.
Ça arrive, hein.
Ils ont un impact puisqu'on a.
Tu sais, si c'est les millennials, c'est normal, hein. Les millennials, ils foutent la merde partout.
Oh, ils sont un peu jeunes pour décider encore quand même.
Oh, non, mais c'est que techniquement, Thomas, nous, on fait partie des millennials.
Ah bon ? Bah cassez-vous de là alors.
Ouais, c'est compliqué quand même.
Ouais, c'est chiant.
Statut, c'est compliqué.
On est plus près des millennials que de la génération. C'est quoi la génération Y ?
Y, génération Y, mec, des années 80.
FDP.
Vous-même, vous savez.
Mais du coup, c'est proche de la vérité de ce que tu viens de dire, puisque on apprend que on interne que chez Blizzard, il y a pas mal d'anciens devs qui sont partis.
Ah, tu vois.
Et qui en avaient en fait marre de la politique actuelle de Blizzard, en fait. Et du coup,
parce qu'ils voulaient
se barrer,
tout rajeunir, ouais, tout changer.
Bah exactement. En fait, ils ont, selon les développeurs, dont les vieux de la vieille, qui ont vraiment le noyau dur en fait du studio, ils se sont dit en gros, ils ont tout zappé ce qu'ils faisaient l'âge d'or de Blizzard. Pour nous faire un espèce de monstre à plusieurs têtes et qui ne plaît pas forcément aux joueurs, malgré le succès d'Overwatch par exemple. Mais par exemple, on voit qu'Overwatch ça a quand même pas mal décliné en termes de.
Puis c'est pas le même public.
En fait, ils sont ouverts à un nouveau public, mais ils ont un peu oublié
les anciens,
négligé les anciens.
La base.
Et du coup, on voit ce que ça donne avec Warcraft 3, quoi. Voilà.
Voilà. Bah non, dire que t'avais pas grand chose à balancer dessus, tu me disais tout à l'heure.
Il a vidé son sac.
Finalement, là, ouais, t'avais quand même pas mal de trucs à.
Mais en tout cas, c'est pour vous dire que. Voilà, c'est, moi, ça
pas mal de griefs.
C'est pas moi qui fais le test sur Gameblog.
Non, c'est Dopamine. J'espère
c'est
que
Dopa.
À l'heure où on parle, il l'aura rendu, mais je suis pas sûr.
Mais du coup, il est possible qu'il y ait des choses qui divergent. Voilà, c'est pas. Mmh. Je tiens pas à des vérités absolues. Moi, c'est mon avis.
Toi, t'as connu le.
Moi, j'ai connu le jeu d'époque. Ouais,
parce que Dopa a connu celui d'époque, je sais pas exactement. Mais en tout cas, il disait qu'il connaissait bien. Donc, je te fais confiance, hein, on va dire. De toute façon, tu reliras ce qu'il a écrit et ça se trouve c'est pourri.
Non, mais en plus,
peut-être que tu vas tout réécrire.
Romain, tu te moquais, mais vraiment Warcraft 3, c'est vraiment.
C'est pas mon style.
C'était un phénomène de société.
Ah,
dans
oui,
le sens
moi
où,
je m'en souviens. Moi, c'est pas du tout mon genre non plus, mais je sais que les gens adoraient, quoi.
Ah, non, mais je me moquais juste parce que c'est des thématiques
récurrentes
sur les jeux PC, mais oui, je sais que Warcraft c'est un truc énorme.
Sur Joystick à l'époque où je bossais, t'avais toujours des couvertures Warcraft et machin. Enfin,
et surtout,
c'était le gros truc de l'époque quand même.
J'étais au collège et, genre, dans la cour de récréation, même les gens qui connaissaient pas, qui n'avaient pas de PC, qui étaient joueurs console, ils récitaient les phrases,
les
fameuses phrases cultes, etc. Tellement c'était connu, c'est assez impressionnant, quoi.
Et on voit que c'est pas la même génération, quoi.
Oui, mais alors tu déconnes, mais moi j'ai expliqué à Camille. Justement, quand on en discutait, que moi je jouais pas forcément à CSGO, mais ça va péter, on le balançait à peu près tout le temps. Enfin, il y a des trucs qui restent comme à force de les entendre.
Exactement.
Ça va péter.
Et Camp Get Some, tu connais ou pas?
Ouais.
Parfait, pour le dernier thème, ma foi, et j'espère que le bizarre
nous écoute.
Il doit avoir les oreilles qui sifflent.
Ils ont annoncé
et
un gros
écouter
patch.
Les joueurs surtout.
Ils ont annoncé un gros patch. Donc est-ce
qu'on licencie 300 personnes en réponse à ça?
Est-ce que le gros patch va résoudre la plupart de ces problèmes?
Bah oui, c'est ce qu'il faut voir.
Et le gros bébé, on en parle.
On verra bien. Tout de suite, passons à l'anniversaire.
Et ouais.
Anniversaire avec un certain Donkey Kong.
Donkey Kong, mais c'est pas le Donkey
Thomas.
Rap pour le coup, c'est pas l'épisode le plus connu, mais il a 15 ans aujourd'hui.
C'est fou, hein.
Je veux parler de Donkey Kong Jungle Beat.
Jungle Tub.
Pas les plus connus, mais peut-être un des plus originaux.
Exactement, peut-être meilleurs platformers de la GameCube. Allons-y, carrément. C'est un jeu assez important, il sortait, ça fait jour pour jour, 15 ans, puisque c'était le 4 février 2005 en Europe.
Exact.
Qu'est-ce qui faisait ses spécificités?
Bah,
d'abord,
ça tue, voilà,
c'est historiquement, c'est le premier jeu Donkey Kong qui est redéveloppé par Nintendo suite à la triste vente du studio Rare auprès de Microsoft.
Et oui.
Nintendo a bien été obligé de s'occuper à nouveau de la licence. Et c'était donc sur GameCube que le jeu sortait.
Et avec 44.
Un accessoire assez étonnant pour un jeu de plateforme, puisque le jeu était compatible avec les bongos, les Deka Bongo qui étaient sortis avec Donkey Konga premier du nom sur la même console. Et c'était donc un platformer qu'on jouait avec un instrument de musique, ce qui est quand même assez peu courant. Et pour le coup, me joins à Romain, ça marchait super bien. Alors évidemment, vous déplaciez votre personnage de gauche à droite avec les deux parties du bongo.
Je pense que c'est Julo qui les a volés à l'époque.
On sautait en appuyant sur les deux
ou
et
Greg.
En tapant des mains, on interagissait en fait avec les éléments du décor, parce que c'est évidemment un jeu de plateforme pas forcément comme les autres, puisque les déplacements étaient un peu particuliers.
Et évidemment.
Il fallait en fait comboter un petit peu pour réaliser un high score. C'était un jeu à l'ancienne où le score comptait quand même pas mal. Et où il fallait essayer de réaliser des enchaînements, parce qu'on était propulsé dans les airs avec des singes, tout atteint d'éléments du décor qui, comme dans les anciens Donkey Kong par exemple, avec des barils, vous projetaient dans toutes les directions. Il fallait récupérer des bananes, et ça marchait mais merveilleusement bien. Et c'est pas forcément un hasard, puisque derrière quand même, on retrouve un réalisateur qui a laissé une certaine empreinte chez Nintendo, puisque c'est Yoshiaki Koizumi.
Exact.
Celui qui a...
ton maître.
Par exemple, développer la Switch, en tout cas c'était le chef du projet. Celui qui, chez Nintendo aussi, va réaliser un certain Super Mario Galaxy 1, Galaxy 2, Super Mario Odyssey. Donc il y a quand même pas mal de jolies petites choses derrière qui ont été développées par Koizumi. Et qui, rétrospectivement, expliquera que justement, les interactions en tapant des mains dans Donkey Kong Jungle Beat vont inspirer une partie du gameplay de Super Mario Galaxy, où justement on s'accrochait avec la Wiimote à des étoiles, à tout un tas d'éléments du décor. Donc on doit quand même une fière chandelle à ce jeu de plateforme qui est injustement méconnu, et c'est vraiment dommage, parce que c'est quelque chose qui marchait très très bien.
Ouais, c'était à cause de l'accès aux bongos, tout le monde était loin d'avoir les bongos. Enfin, déjà en plus la GameCube, c'est pas forcément la console de Nintendo qui s'est le mieux vendue. Donc c'est ça plus ça, ça fait que c'est pas le meilleur moyen d'avoir les spotlights sur Donkey Kong Jungle Beat. Et c'est là où tu sens aussi la qualité made in Nintendo, parce que les accessoires de ce genre, parfois ça peut être un peu bancal en termes de sensation de jeu et de temps de réponse, etc. Et là c'était totalement jouable au bongo, et ça marchait vraiment bien, et ça aidait même à t'immerger un peu dans le monde de Donkey Kong, parce que je trouve que forcément ces bongos qui étaient faits à la base pour un jeu de musique Donkey Kong lui aussi, ça allait bien ensemble quoi. C'était toute une atmosphère qui se dégageait du truc, ça rendait super bien. Bon, après ils l'ont sorti sur ils l'ont porté sur Wii, mais tu perdais justement cette utilisation des bongos.
Alors chaque bongo était remplacé par évidemment le nunchuck et la Wiimote, sachant qu'à l'époque déjà il était quand même jouable au pad GameCube, mais on perd à la louche 65 à 70% de l'immersion et du plaisir de jeu.
Évidemment.
Donc voilà, si vous n'y avez jamais joué, que vous êtes amateur de rétro gaming et que vous n'avez pas peur d'acheter un accessoire qui prend un tout petit peu de place, j'en ai toujours deux à la maison, ça prend la poussière et ça occupe quand même pas mal d'espace, mais Donkey Kong Jungle Beat, c'est très 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 chouette, et vraiment parmi les platformers de la GameCube, il démérite certainement pas. Donc on lui fait un gros bisou, on lui souhaite un joyeux anniversaire.
Parfait, merci beaucoup. Et on va finir comme toujours par le hors-jeu de la semaine, avec Romain cette fois, qui va nous parler de un documentaire, Up the Town.
Un documentaire qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il parle d'une de mes licences fétiches. Cette licence, c'est Ghostbusters. Alors c'est un projet qui est assez particulier, parce qu'il a mis plus de 10 ans à sortir. Il y a quelques années, il avait même été complété, enfin son financement avait été complété via une campagne Kickstarter. Mais c'est certainement le documentaire le plus complet sur Ghostbusters que j'ai pu voir jusqu'à présent, parce qu'au fur et à mesure des 10 ans, ils ont eu accès à quasiment tout le monde, aussi bien
avant qu'il meure, tu veux dire.
Bah oui, parce qu'on l'a vu là dans la bande-annonce, il y a Harold Ramis qui est un des co-auteurs du film et qui jouait Egon Spengler, qui est mort en 2014 de mémoire. Et là,
ils ont bien fait de le faire en fait.
Il intervient à plusieurs reprises dans le documentaire. Alors ils n'ont pas Bill Murray, parce que Bill Murray lui répond pas à ce genre d'interview, c'est pas son truc. Mais outre les comédiens, Ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'ils ont interrogé énormément de personnes du staff pour les effets spéciaux, les costumes, etc. Et mine de rien, quand tu regardes un truc sur le cinéma comme ça, bah, ce sont souvent ces gens-là qui ont le plus d'anecdotes croustillantes parce qu'ils passent peut-être plus de temps sur le, sur le projet.
Ils entendent plein de choses et tout ça.
Et ils n'ont pas les restés à Hollywood, les acteurs, ils s'autocensurent, tu vois. Ils savent ce qui peut être dit ou ce qui peut ne pas être, ne pas être dit. Et je vais pas tout vous raconter parce que l'intérêt c'est vraiment de le regarder. Mais par exemple, on a les origines de la licence Ghostbusters, parce que Dan Aykroyd, donc qui est un comédien très célèbre, qui était un des Blues Brothers et qui est donc un des Ghostbusters, c'est lui qui a créé le truc parce que sa famille est dans le tout ce qui est surnaturel, apparition, tu vois, de père en fils, ils sont des chercheurs dans le paranormal et les trucs comme ça. Donc lui, tu vois, je crois qu'il tient le livre écrit par son père.
Il est dedans, quoi, depuis longtemps, quoi.
Il s'est imprégné dans lui depuis le début. Et on apprend aussi que son premier script, c'était... bon, ça, c'est quelque chose que les fans de Ghostbusters savent souvent, mais son premier script, c'était pour lui et John Belushi. John Belushi, c'était son camarade des Blues Brothers, qui est mort d'une overdose. Ouais. Et l'idée à l'origine, c'est que ça devait se passer dans le futur, dans un futur où les Ghostbusters sont devenus presque aussi fréquents que les éboueurs ou les pompiers, etc. D'accord, okay. Où il y a plein de...
C'est un vrai métier, quoi.
Voilà, c'était un métier à part entière. Et quand il a filé son script à Ivan Reitman, qui est devenu donc le réalisateur du film, il s'est dit, non mais c'était en 83 hein, à ce moment-là, ouais. Ou même au début, encore plus tôt que ça. Il dit, c'est totalement impossible en termes de budget, ce que ça nécessiterait en effets spéciaux, etc. Ouais. Enfin, c'est pas concevable. Et c'est lui qui lui a conseillé. Et si on ramenait ton concept sur un New York plus réaliste, plus terre à terre, et transposer ce concept des chasseurs de fantômes, un peu comme des exterminateurs, mais dans un monde réel. Il y a à la base, il pressentait Eddie Murphy aussi pour faire partie de l'équipe. Enfin, on apprend plein de trucs. Et il y a aussi Ernie Hudson, donc qui joue Winston. Winston, c'est un peu la pièce rapportée des Ghostbusters. C'est celui qui rejoint l'équipe en cours de film. C'est le seul des quatre qui est pas scientifique. Et il explique que lui, quand il est arrivé quand on lui a proposé le projet, son personnage arrivait genre à la sixième page du script ou truc comme ça. Donc c'était un personnage qui était là dès le début, très important. Et genre la veille du tournage, il reçoit un nouveau script, là il apparaît à la page 80 ou truc comme ça, son rôle avait été cuté de ouf.
Par 10,
donc il l'avait un peu mauvaise. Alors il raconte comment on l'a un peu calmé, enfin rassuré sur le tournage, comme quoi il y a pas mal de ces blagues qui ont été filées finalement à Bill Murray.
C'est vachement rassurant ça. Bon, finalement t'auras pas beaucoup de présence, mais
t'inquiète
plus
pas.
Non mais pas rassuré, mais au sens où ils l'ont apaisé, tu vois.
Oui oui.
Expliquer
un petit billet à coup de million.
Ça arrive, c'est comme ça. C'est non, mais tu vois, il envoie la photo. Ah, mais non, elle apparaît pas à l'écran, mais ils expliquent comment ils ont tourné les séquences avec le Bibendum Chamallow, qu'en fait c'était une maquette gigantesque avec un mec en costume.
C'était Michelin, en fait.
Comment ils l'ont cramé, comment. Enfin, c'est. Ça dure. Moi, la version que j'ai pu voir, parce que j'ai eu une version en avance, elle faisait 100 minutes. Donc 1h40.
Ah ouais.
La version complète du documentaire fera plus de 2 heures, je crois. À la base, en fait, ça devait être un documentaire sur les deux films Ghostbusters 1 et 2 en une fois, mais ils avaient tellement de contenu qu'ils l'ont découpé en deux, et la deuxième partie, donc sur la suite, elle sortira, on m'a dit, dans environ 2 ans. C'est super intéressant. Donc ça s'appelle Cleaning Up the Town.
Donc c'est trouvable sur YouTube. Hein.
Alors pas encore. Pas encore. C'est je te dis, moi j'ai eu accès, comme je connais un peu les gens qui s'en occupent, d'accord. J'ai eu accès à un screener,
une préversion
avec le watermark en gros sur l'écran, etc. Je sais que c'est déjà sur les plateformes de streaming en Angleterre, genre Amazon, tout ça. La réalisatrice m'a dit que ça arrive, ils ont un contrat de distribution pour la France, donc ça sera disponible chez nous. J'ai pas, au moment où on a enregistré le podcast, elle devait me donner plus de précisions, mais je les ai pas eu à temps, malheureusement. Si ça vient, je les mettrai dans la news hors jeu, et je mettrai ça dans le corps du texte. Mais ouais, c'est intéressant aussi bien pour les fans de Ghostbusters, parce que franchement, même si vous connaissez bien le truc, je pense que vous allez apprendre des infos sur le film, l'univers, etc. C'est intéressant aussi pour les fans de cinéma, parce que ça explique comment étaient faits films à cette époque-là, aussi comment ils ont réussi à se faire financer, etc. Parce que Columbia, qui désormais appartient à Sony, à l'époque ça appartenait à Coca-Cola. Columbia, c'était un studio de Coca-Cola. Donc ils expliquent ils ont réussi à avoir l'ancien président de Columbia qui explique comment il a donné le feu vert au projet, etc. Comment ils lui ont demandé l'argent, enfin le
placement produit, tout ça.
Franchement, c'est ultra complet. Il passe sur si tu regardes le film du placement produit Coca-Cola, il y en a pas mal. Tu vois des canettes.
Mais
quand
tu sais que effectivement, j'avais oublié que ça appartenait à Coca.
Ça explique certaines choses. Et les décors, c'était à un moment ils ont peut-être eu le décor intérieur le plus grand de l'histoire, parce que les toits de Manhattan, ils ont tout construit sur un plateau, quoi. C'est assez ouf comment ils ont choisi les comédiens. Sigourney Weaver qui explique que quand elle a fait son casting, elle a d'elle-même décidé de faire le chien possédé, en fait. Donc elle s'est mise à quatre pattes dans le bureau du réalisateur, elle s'est mise à grogner, etc. Et Réa, après, elle lui a dit tu fais plus jamais ça.
Et donc, si elle disait ça aujourd'hui, je sais pas si ça passerait.
Donc il y a
comment j'ai eu le rôle.
Oui, bah, un autre truc, tu vois, bouffe tout le fantôme vert, ouais. qui passe son temps à bouffer, etc. Et ben en fait, c'est la représentation de John Belushi, l'acteur qui devait faire le film au début, mais qui est mort. Comme c'était un morphal dans la réalité, et ben ils lui ont rendu hommage de cette manière-là dans le film. Donc franchement, je vous le conseille, hein, pour les fans du cinéma des années 80, les fans de Ghostbusters, les fans de cinéma. Il y a énormément de choses. Moi, la version de 100 minutes, pardon, elle est passée super vite. Bon, après, moi, la thématique forcément me parle beaucoup. C'est un bon moyen de se mettre dans l'ambiance avant la sortie d'Afterlife cet été.
Après la vie.
Cleaning Up the Town, ça s'appelle. Voilà.
Parfait. Merci beaucoup, Romain. Merci à tous, les amis. Et puis nous, on close ce podcast en se disant la semaine prochaine, n'est-ce pas ? Pour le podcast 522.
Le coronavirus n'est pas passé par là.
Normalement non, mais bon, après on peut
jamais
savoir.
Normalement, c'est toi qui passe en premier. Hein.
Ouais. Là, vu mon état actuel, oui, je pense que c'est moi le plus faible.
Ouais. Écoute, on va aller bosser dehors, je crois, et ouvrir toutes les fenêtres. Voilà. Merci à Pouffé à Technique. Merci Charles de nous avoir suivis. J'espère que c'était pas trop long. Moment, t'as pu voir comment ça se passait.
Sa tête s'est rapprochée du sol progressivement au fur et à mesure.
C'est ça. Hein, t'as un stage d'observation.
Encore 5 minutes, il a la tête entre les jambes.
Exactement.
Il tombe de la chaise.
Allez, merci à toutes et à tous, et on se retrouve la semaine prochaine donc pour un nouveau podcast d'actualité. Et d'ici là, portez-vous bien et jouez bien.
Ciao.
Plein de bisous.